Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Europe qui avait lieu sur le circuit urbain de Valence. Un Grand Prix, que dis-je, un week-end qui nous aura appris deux choses. La première, c'est que tel un généticien cherchant contre l'hémiopathie, il y avait un espoir. Oui, ce n'est pas une fatalité. Une piste chiante peut nous donner, si ce n'est une course intéressante, une course très agitée. La deuxième, saluons quand même le professionnalisme de Mark Webber, qui à peine après avoir re-signé avec Red Bull, a décidé de faire une pub pour son patron, car comme il le dit si bien, Red Bull donne des ailes. Ils sont là avec moi, ils vont m'accompagner, peut-être qu'ils ont eux-mêmes bu un peu de Red Bull, histoire de bien tenir la soirée. Ah, bonjour Dino, bonjour Enzo.
Bonjour, bonjour Enzo.
Bonjour à tous, bonjour Dino, bonjour Tinji.
Alors, ce week-end.
Piste intéressante, course chiante. Ah. pour te contredire.
Tu remarqueras que j'ai pas dit spécialement course intéressante, j'ai dit course agitée.
Voilà, course agitée. Voilà. En dehors de ça et qu'en dehors de 2-3 événements, ça aurait été une course pas forcément super passionnante. Par contre, ouais, c'est une vraie révélation pour moi la piste. C'est pas une piste mythique, mais il y a des très très bons passages, surtout la fin.
Déjà, il y a du progrès. On a vu quelques dépassements. Ce qui est déjà un grand progrès hein, pour Valence. Hein.
On a vu Kamui Kobayashi dépasser.
Oui, bah c'est déjà ça.
Bel effort.
Voilà. Et toi, Ento, bon, chose.
Pour tout dire, j'ai un peu la tête sous l'eau depuis une semaine, donc.
Allez, tout de suite, on enchaîne par l'éphéméride.
Oh, j'adore le petit ouais Enzo derrière. Voilà, je suis du CNR contre son logiciel qui ne fonctionne pas.
Voilà, comme d'habitude.
Même le logiciel fait la grève contre l'éphéméride.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite. C'est pas drôle en fait.
Nous étions donc le dimanche 27 juin à Saint-Fernand. Quelques événements.
Quand je pense à Fernande.
Donc quelques faits de ce 27 juin. Le 20.
Mais c'est vrai que quand on pense à Fernande.
Oui.
N'ose pas le dire, mais.
J'ai hésité à faire une blague dessus, mais bon, je savais que vous réagiriez, donc voilà.
Mais quand tu penses à Rosalie.
Le 27 juin 1964, c'était la création de l'ORTF, l'Office de Radio-Télévision Française, parce que à l'époque, toutes les chaînes étaient publiques, et même les radios, de toute façon, il n'y avait pas de trucs privés.
Il n'y avait pas de pub pendant la pub, pendant le Grand Prix.
Il n'y avait pas de pub tout court.
C'était le monde magique où il n'y avait pas de pub pendant la pub.
Waouh. Le 27 juin 1985, nous quittait. Elle ne nous quittait pas vraiment. C'était la route 66 qui était officiellement abolie. Vous savez, cette route mythique qui va de Chicago à Los Angeles. Donc elle était déclassée. Elle était déclassée. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a même des sections de la route qui n'existent plus. Hein.
Elle a été déclassée, elle est 65 maintenant. Elle a pris 5 secondes de pénalité. C'est...
Je dirais... Le 27 juin 1997 sortait au Royaume-Uni le premier tome de Harry Potter et le premier tirage était de 5000 exemplaires.
Bah oui, des fois que ça marche pas.
Des fois que ça marche pas.
On sait jamais.
Les naissances du 27 juin, le 27 juin 1955, c'était la naissance d'Isabelle Adjani.
27 juin de quel siècle? Tu pourrais préciser l'année, s'il te plaît.
Sinon, le 27 juin 1970, c'était la naissance de Régine Cavagnou, une skieuse française.
Ça
date de 2001, mais c'est vrai qu'elle nous avait quitté assez jeune finalement d'un accident.
Mais dans mon cœur, c'est récent.
Mais je croyais que tu faisais moins de trucs chiants dans l'éphéméride maintenant.
Bah en fait, je suis censé en faire moins, mais le problème c'est que comme vous me coupez encore plus, ça prend plus de temps.
Non mais tu vois, en plus, t'as vu, il nous engueule parce qu'on le coupe alors qu'on essaye d'enrichir son propos, d'essayer de rendre le truc.
Donc dimanche, c'était la Journée internationale des sourds et aveugles. Hein, qui a été célébré bien évidemment par l'arbitre uruguayen d'Angleterre-Argentine, Angleterre-Allemagne.
Si, quand même. Je pensais que c'était Weber justement qui avait pas vu trop Kova.
Sinon, je pense que ce match, en fait, l'arbitre uruguayen est peut-être un fan de Ferrari et donc, en vengeance de la pénalité d'Hamilton, il a décidé de punir les Anglais parce que tout est lié.
Oui, c'est vrai.
Le 27 juin, au Brésil, c'est aussi la fête des Métis, qui promeut la diversité raciale, hein, dans un état multiethnique comme le Brésil, et c'est une fête qui existe depuis 2006.
Ah, c'est récent.
Oui, c'est récent. Et donc, en F1, ce cher 27 juin, c'était la naissance de...
Bah, de... Si, on l'a dit. Non, mais je sais, Rosberg.
De Nico Rosberg. Alors, oui, c'était ça. Bon, on peut pas dire qu'il a eu un super anniversaire dimanche.
Attention, chers auditeurs, nous allons revenir sur la carrière de Nico Rosberg.
Alors, on va pas revenir sur la carrière de Nico.
Bah si, ailleurs.
Oh non. Ah bah non, c'est l'anniversaire de Nico, faut que tu reviennes sur Nico.
Non, il va faire kéké.
On va faire kéké.
Ah, faut toujours qu'il fasse son kéké.
Oui, tu
Grand
dis...
Grand Prix du Canada, il nous fait un truc sur la Suède, et là, c'est l'anniversaire de Nico, il nous fait un truc sur kéké.
Ne cherchez pas de comprendre.
Bah, en même temps, si je fais sur Nico, ça va être rapide. Alors que sur Kiki, il y a plein de choses à dire.
Ce qui est bien, c'est qu'il admet qu'en fait, il a eu un gros coup de feignasse pour pas faire sur Nico, donc il a préféré faire sur le père, c'est mieux.
Donc déjà, est-ce que vous connaissez le vrai prénom de Kiki?
C'est je sais pas quoi dit Kiki.
Alors c'est Keijo.
Keijo.
Keijo Eric Rosberg dit Kiki.
C'est comme Gigi Leto, quoi. Gigi, voilà. Personne ne sait ce que ça veut dire.
Voilà. À noter que par contre...
C'est Jean-Jacques Leto. J'imagine le mec s'appelle Jean-Jacques.
Jean-Jacques Leto.
Il est finlandais, il s'appelle Jean-Jacques. Mais le mec, il a tellement honte d'avoir un nom français qu'il préfère Gigi.
À noter que par contre, parce qu'on peut, comparer bien évidemment le père et le fils, Nico, bon, qui est le diminutif de Nicolas, ne l'est pas dans le cas de Nico.
Oui, c'est Nico, pas c'est Nico.
Voilà, Nico, c'est Nico. Oui. Voilà. Est-ce que vous savez l'âge qu'il a, ce brave kéké?
Oui.
53?
Non, je vais vous le dire. Il a 10 ans de plus que Sémi. Donc ça doit être 53. 51.
Il manque une retenue.
Bon bah 52 alors.
Non, c'est pas cette retenue-là. Il est né en décembre. Il est né en décembre 48. Il a 61 ans quand même, déjà. Hein.
Oh putain, oui, c'est ça.
Ah, on dirait. Et c'est, on a du mal à se rendre compte que les années 80, c'était il y a près de 30 ans.
Oh, ta gueule, hein.
Non, mais...
D'accord. Allez le dire.
Allez le dire. Ah. Et donc, revenons un peu sur sa carrière. Alors, à noter qu'il a été en F1 pendant 9 saisons, de 1978 à 1986, que, comme on le sait tous, il a été champion du monde en 82. Alors, est-ce que déjà, vous pouvez me donner les équipes pour qui
il a couru? McLaren.
Williams.
Non. McLaren. McLaren en 86. Williams, bien évidemment, il sera définitivement et toujours associé à Williams, mais il n'y a pas que.
Ça, c'est sur la fin de sa carrière. Il n'a pas eu d'autre équipe. Alors, sur la fin de sa carrière.
Non, il a fini chez McLaren quand même.
Il a fini chez McLaren.
Il a fait sa dernière saison chez McLaren.
Exact.
Après avoir longtemps été en effet chez Williams.
Pourtant, il y a une écurie suédoise, ça se trouve, il y a participé.
Et il n'a pas fait partie d'une écurie suédoise.
Ah ben, je recycle peu de trucs historiques que je connais. Hein.
Mais il a fait partie d'une équipe brésilienne.
Ah ben...
Fittipaldi,
en effet, en 80 et 81. Mais il n'y a pas que. En 78 et en 79...
Il a dû faire Wolf.
Il a été chez Wolf en 79. Toutes les courses qu'il a fait en 79 chez Wolf et 4 courses en 78. Mais en 78, il a été chez d'autres écuries. Il a beaucoup bougé en 78.
Esquette?
Non.
Oui. C'est court. ATS.
ATS. 5 courses pour ATS, en effet. Il en manque une avec qui il a fait ses 5 premières courses. Et je vais vous donner un indice. Roosevelt.
Théodore.
L'écurie Théodore. À la fois de Hong Kong.
Bah, Hong Kong, c'était anglais. Hein.
Oui, c'est vrai. Ah, tu es malin. Alors, est-ce que vous savez le nombre de victoires qu'il a eu? Faut pas oublier que c'est un champion du monde, qui fait partie...
Pas beaucoup, pas beaucoup.
8?
Ah, moins 8, que ça!
7, 5, 5 6,
5.
3, 2... Ah, c'était trop fort!
5 seulement.
Ouais, forcément, en disant tout.
Et au niveau des pole positions?
3.
Non.
5 aussi, allez.
5 aussi.
Ah bah, alors, tiens, trop fort.
Nombre de meilleurs tours?
5
aussi.
Non!
4.
Moins que
3,
ça!
2, 1, 2.
3. 3. À noter que Nico, il en a déjà 2.
Oh, mais lui, il est pas champion du monde. Et il est pas prêt de l'être.
Est-ce que vous avez une idée du nombre de points en tout, hein, bien évidemment pas un chiffre exact, qu'il a plus marqué? Non, non.
Qu'il a plus marqué.
Un tout petit peu plus.
150.
Exactement 159 points et demi. À noter que Nico est déjà à 150,5.
Oui, forcément. Avec des deuxièmes places à 20.
Exactement. Et d'ailleurs, il y a une stat en fait où le fils bat déjà le père, mais c'est pareil, hein, c'est à cause des points. C'est que Keke Rosberg a une moyenne de 1,4 contre 1,91. En fait, quand on regarde les stats de Keke Rosberg, on se rend compte que par rapport à...
Il était mauvais.
Alors, c'est-à-dire que par rapport à l'ensemble des pilotes, on peut dire qu'il fait globalement partie, oui, des 50 meilleurs pilotes de l'histoire, quoi.
Mais il est champion du monde, lui.
Mais voilà, il est champion du monde. Et par rapport au champion du monde, par contre, sur quasiment toutes les catégories, il est dernier ou parmi les derniers.
Même Kimi le bat.
Ah oui, oui, oui.
Iceman Air, c'est pour toi.
Spécial dédicace.
Faut le rappeler, hein, il gagne en 82 avec une seule victoire, sa première victoire. En plus.
C'était sa première victoire et il est champion dans la foulée.
Ouais, c'était sa première saison chez Williams.
Eh ben, il doit l'apprécier, ça.
Oui.
C'est le seul, hein.
Oh,
qui a gagné le titre le jour de l'année de sa première victoire.
Bah oui, parce que même.
Ça ne sera pas possible cette année.
Non plus.
Non. Ah, quoi que, Weber.
Rosberg.
Ah non, Weber.
Ah non, Weber, il a gagné en dernier.
Il avait gagné en dernier. Ouais, exactement.
Sur Rosberg, peu.
Oui.
On a Rosberg et on a, comment il s'appelle, notre Petrov.
Est-ce que vous savez ce qu'il a fait après être parti en F1? Alors, pendant quelques années, il n'a pas fait de course, mais il est revenu, il n'est pas allé n'importe où.
Il a été manager notamment de la Alpine, non?
Exactement, oui.
Commissaire de piste lors du...
Non, il a fait...
Ah, plutôt. Je parle beaucoup plus tôt.
Non, il n'est pas allé chez Peugeot.
Exactement, en 90 et 91, il a participé aux victoires de Peugeot, alors au championnat du monde des voitures de sport. Alors, par contre, il est parti juste avant que Peugeot ne gagne le Mans.
Putain, c'est con quand même.
C'est con. Et en 92, donc, il est parti pour le DTM, où il a remporté une manche et il s'est classé cinquième du championnat. Mais après, bon, il n'a pas eu spécialement de super grands résultats. Et donc, il a vraiment arrêté sa carrière en 95, où en effet, là, il a commencé à s'occuper d'autres pilotes, comme Hakkinen, avec qui il a partagé le surnom de Finlandais volant, hein,
ouais.
Et bien évidemment, son fils. Voilà, c'était tout pour revenir sur l'étendue d'un champion du monde, mais quasiment un des plus mauvais.
Donc pour voir
le fils est né ce jour-là.
Voilà, pour vous rappeler le lien, c'était juste Nico qui était né ce jour-là. Hein, mais bon.
Alors passons à la suite, n'est-ce pas Dino?
Oui, passons au poleman de l'actu.
Où il y a toujours pas de générique.
Bah ça va pas. Oh. Quand même pas s'embêter à faire des génériques. Alors poleman de l'actu, comme d'habitude, hein, question pour un champion de la F1 en premier, avec une petite modification, puisque la dernière fois c'était assez coton. Le sprint de l'actu, 10 questions à répondre en 90 secondes, et enfin la question actu qui passe inaperçue, que j'ai un petit peu torché dans l'après-midi. Alors, vous avez le choix entre deux questionnaires, un questionnaire Chocholoza et un questionnaire Desafio,
Non, tu me trouves d'autres noms, s'il te plaît.
Alors, et ces noms, ils ont une logique. Est-ce que vous savez pourquoi j'utilise ces noms de Chocholoza et Desafio?
Non.
On ne dirait pas de l'espagnol, on dirait plus du portugais.
Alors, Chocholoza, c'est plutôt sud-africain, et Desafio, c'est plutôt espagnol.
Ah.
Non, mais tu nous trouves d'autres noms.
Nous sommes à Valence, qui a organisé...
La Coupe d'Amérique.
Et se trouve que
C'est des noms de...
Deux noms de navires qui ont participé...
Moi, je dirais Alinghi, et puis il me dira Aura. Hein.
Non, tu diras Chocholoza ou Desafios. Mais rassure-toi, Enzo, puisque tu as perdu la dernière fois, tu as le choix.
Eh oui, mais il n'y en a pas, pourquoi t'en fais l'autre?
Team New Zealand et BMW Aura, c'était trop dur pour toi.
C'était trop logique, c'était pas assez original. C'était pas assez ridiculisant pour vous.
Et c'est quoi déjà la première? Il a le droit de répondre après ou pas? Je sais plus. Desafios, moi je t'ai dit.
Ah, Desafios, d'accord. Ça tombe bien en plus.
Puisque tu m'as dit que ce serait les questions les plus simples.
Ça tombe bien, c'est le nom le plus simple à prononcer. Mais ça tombe bien parce que c'est justement un questionnaire, je me disais, ça sera un questionnaire pour Enzo.
Bonsoir.
Et ce sera donc Shinji qui commencera puisqu'il y a le premier questionnaire sur mon
écran. Non, à chaque fois c'est lui qui commence.
Ah bah, c'est la loi, le premier questionnaire sur mon écran c'est Chocholoza. Donc c'est lui qui commence.
De toute façon, c'est le plus commun là pour l'instant.
Alors là c'est le question pour un champion.
C'est commun ça?
Non, alors on va revenir à l'ancienne formule.
J'y comprends rien.
On va revenir à l'ancienne formule qui était très bien, c'est-à-dire que... Alors, j'ai un peu modifié le principe, c'est-à-dire que je vous donne une citation et au fur et à mesure, je vous donne des indices pour trouver qui est l'auteur de cette citation.
D'accord.
Pour histoire de poser un peu le concept, puisque la dernière fois, je me suis vraiment pris les pieds dans le tapis en cherchant quelque chose de beaucoup trop compliqué. Donc là, j'espère avoir réussi à faire quelque chose de plus simple. On va revenir à la règle qui consistait à... Il y en a un qui répond à sa question. S'il n'a pas la réponse, l'autre peut répondre et remporter les points. Et,
Mais
seulement à la fin. Et peut doubler les points. Vous vous rappelez la règle où on peut doubler les points. Mm. D'accord.
Oui.
Donc, comme c'est Chocholosa qui commence, c'est Shinji qui devra donc dire Chocholosa, hein, pour m'arrêter dans mon flow. C'est beau ça, dans mon flow.
Flow.
Alors, attention Shinji, tu te prêts?
Oui.
Alors, attention auditeur, indice. Suite à des rumeurs qui parcourent le paddock annonçant mon retour, je déclare dans les colonnes du Financial Times, ce serait génial de travailler avec eux, mais je ne sais pas quand ce sera possible, et même si une telle option est sur la table.
Chocholosa?
Oui.
Kimi Raikkonen?
Pas du tout. Originaire de la Pennsylvanie aux États-Unis, je suis titulaire d'un diplôme de designer. Je fais fortune en 2006 avec la vente de ma société à une compagnie informatique
Chocholosa?
De renommée... Oui.
Reinhardt?
Non. À une compagnie informatique de renommée internationale et je suis désigné comme l'une des personnalités les plus influentes de 2007. En 2009, je deviens partenaire du projet de Formule 1 américain USF1 à hauteur
Chocholosa?
De
40...
Oui.
Je sais pas, le créateur de Google?
Pas le créateur de Google. En 2009, je deviens donc le partenaire du projet de Formule 1 américain USF1 à hauteur de 40 millions de dollars. Un projet dont ma compagnie...
Chocholosa?
Oui.
Le président de Google?
Pas le président de Google. Un projet dont ma compagnie devait porter les couleurs jusqu'à sa dissolution en 2010. Bien qu'américain, mon nom en français est synonyme de crier, brailler, vociférer ou encore beugler. Je suis.
Chocholosa? Yahoo?
Oui.
Enfin, le président de Yahoo?
Non.
Je sais.
Alors, Ezo, est-ce que tu sais?
Le créateur de Facebook?
Eh ben non, c'est le créateur de YouTube.
Ah merde, oui.
Qui s'appelle Chad Hurley. Hurley, crier, beugler.
Oh.
Alors ça, j'étais sûr, pendant, je me disais, ouais, Shinji, s'il connaît un petit peu en informatique, il devrait trouver. Alors, est-ce que vous savez pourquoi je vous parle du créateur de YouTube?
Oui. Parce qu'il y a des amendes, enfin, la FIA réclame une amende auprès du SF1 pour rupture de contrat.
Alors c'est lié, mais ça c'est plus lié à USF1 qu'à YouTube. Enzo, t'as une proposition pour un point?
Il doit revenir comme sponsor de je sais plus quelle écurie.
Alors d'une écurie assez importante, puisqu'il s'agirait de Ferrari tout simplement.
Oui, oui. Ah oui.
Effectivement, il y a une alors c'est un projet qui consisterait à faire une équipe, enfin une troisième voiture Ferrari qui serait aux couleurs des États-Unis avec YouTube.
Carrément une autre écurie quoi.
Voilà, donc c'est des rumeurs comme ça qui circulent, sinon un partenariat simple de sponsor. Et donc nous allons partir pour la question des Safios de Enzo. Alors attention, Enzo, es-tu prêt?
Des Safios. Oui, des Safios.
À l'occasion de ma première visite lors d'un meeting des World Series by Renault, je reviens sur le fait marquant du week-end. Quoi qu'il arrive, c'est déjà génial. Avec tout ce qui s'est passé entre-temps, je ne pensais pas en venant ici qu'il y aurait autant d'émotions. Pilote de Formule 1... Oui.
Briator. Non, c'est pilote de Formule 1.
Pilote de Formule 1, je me destine au football, puis je me passionne pour la gymnastique, que j'ambitionne d'enseigner, avant de découvrir les joies du karting à l'âge de 14 ans, et de signer de fausses permissions pour prendre des cours de pilotage. En remportant le Grand Prix du Portugal en 1987, ma troisième victoire de la saison, j'efface un record détenu jusque-là par l'Écossais Jackie Stewart depuis 1973, et je termine quatrième du championnat. Pilote français, j'étais surnommé le Tétard à mes débuts, avant de devenir Napoléon, et finalement de m'imposer comme le professeur. Oui.
Prost.
Oui, Prost. Et donc, ça nous fait un point de plus pour Enzo, qui en est donc à deux. Et attention, pour doubler ce point, Enzo, peux-tu me dire pourquoi je vous pose une question? Pourquoi cette citation d'Alain Prost?
Mais c'est parce que son fils doit faire des essais d'une pilotine F1. Nicolas.
Il a testé effectivement la Renault R29, je crois, pas la R30, mais la R29, lors du meeting des World Series by Renault de Manicourt.
Ouais, c'était un roadshow.
Donc ça nous fait 3 points pour Enzo, le point qu'il a piqué à Shinji sur la première question,
yes.
Et les 2 points qu'il vient d'obtenir. Donc Enzo, 3, Shinji, 0.
Mais c'est pas bon de mener, on le sait.
Alors attention, nous allons reprendre avec le sprint de l'actu pour le questionnaire chocholosage.
C'est Shinji, ça.
C'est Shinji, chocholosage, c'est Shinji. Alors, Shinji, es-tu prêt?
Oui.
Oui, tu es sûr?
Faut bien.
Alors attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. À l'occasion de ce Grand Prix, quel anniversaire célébrait Lotus?
500e Grand Prix.
En 2011, quel sera le poids minimal d'une Formule 1?
640 kilos.
Que s'est vu attribuer le pilote chinois de Renault F1 Team, Opintung?
Je passe.
Quel ancien pilote de Formule 1 a été victime d'un accident de bateau?
Je passe.
Selon Magascoigne, quel est l'objectif de Lotus?
Je passe.
Selon l'estimation du Business Book Grand Prix 2010, quelle écurie dépense le plus d'argent pour ses pilotes?
Ferrari.
Correct. Quelle écurie du GP3 et de World Series by Renault a été citée à tort comme candidate pour 2011?
Je passe.
Et quelle est l'écurie préférée du pilote italien Vittorio Liuzzi?
Ferrari.
Faux. Et quelle somme a été récoltée lors de la vente aux enchères des actifs de USF1?
Je passe.
Que va devoir chercher Niki Lauda?
Oh, je passe.
Je reviens sur les anciennes questions. Que s'est vu attribuer le pilote chinois du Renault F1 Team Opintung?
Un volant?
Non, quel ancien pilote de F1 a été victime d'un accident de bateau? Nous en avons parlé tout
Gigi
à l'heure.
Gigi Leto?
Correct. Selon Magascoigne, quel est l'objectif de Lotus désormais?
Être devant Toro Rosso?
Faux. Quelle écurie du GP3 et du World Series by Renault a été citée à tort comme candidate pour 2011?
Je passe.
Quelle est l'écurie préférée de Vittorio Liuzzi?
McLaren.
Correct, et c'est terminé.
Alors, tu l'as aidé sur une des questions, hein.
Ouais.
Oui, oui, mais je t'aiderai aussi si nécessaire, oui. Enzo.
C'était facile, tout ce qu'il a pas trop.
Alors,
nous
revenons sur les questions, donc ça te fait déjà 2, 4, 7 points?
Non.
Attends,
non, je sais pas si ça.
4, 5 points, 5 points.
Sur combien de
questions? Alors, sur 10, sur 10 questions.
D'accord.
Shinji, tu es monsieur 50%. Ouais. Alors, que s'est vu attribuer le pilote la chinois du Renault F1 Team Opintung, effectivement, super licence pour 4 grands prix seulement, hein. Au titre de son expérience, enfin ça me fait toujours marrer ce genre de phrase à la selon Magascoigne, quel est l'objectif de Lotus désormais?
Les points.
Les points?
Non, c'est devancer Sauber.
Carrément, Mike Kobayashi.
Carrément.
Quelle écurie de GP3 et de World Series by Renault a été citée à tort comme candidate pour 2011? Il s'agit de Carlin. Alors ça a été cité, hein, c'est l'équipe la plus titrée en F3 britannique et qui a d'ailleurs récemment gagné, je crois, en World Series by Renault. Et ils ont été cités, mais très rapidement le patron de l'équipe a démenti. Alors, ensuite, question suivante, quelle somme a été récoltée lors de la vente aux enchères des actifs de USF1?
100 euros.
Alors 1,4 million de dollars pour un ensemble de choses. Alors ça allait de la
machine à café.
Alors, non mais attends, c'est encore plus drôle. Ça allait de la coque en carbone qui avait été présentée,
ouais,
en passant par la maquette. Ce qui s'est mieux vendu, c'est les fours autoclaves, parce que ça apparemment, ouais, il y en avait.
Ouais.
Jusque aux corbeilles à papier.
Elles étaient logotées.
Je sais pas du tout. Ensuite, que va devoir chercher Niki Lauda?
Il y a un nouveau sponsor pour sa casquette.
Ouais, tout à fait.
Waouh.
Alors, nous sommes pour le moment sur un score de 5-3 en faveur de Shinji.
Oui.
Et nous allons voir ce que va faire Enzo. Enzo, es-tu prêt?
C'est dommage, je voulais faire Fanny, mais là, il en a marqué 5 quand même.
Attention, tu es prêt?
Ouais, je suis prêt.
C'est parti. Avec quelle écurie l'ex-ingénieur de McLaren, Pat Fry, s'est-il engagé?
Ferrari.
Correct. Quelle monoplace devrait utiliser Pirelli pour ses essais pneumatiques?
Toyota.
Quel pilote non ibérique a couru à domicile à Valence?
Non ibérique. De la Rosa.
Faux, il est ibérique, lui. Quel défi les ingénieurs McLaren ont-ils imposé à leurs pilotes?
Quel défi les ingénieurs McLaren
ont-ils imposé à leurs pilotes?
Je sais pas, je passe.
Dans quelle catégorie Romain Grosjean a-t-il fait son retour en monoplace?
GP2.
Faux, quel est le montant de l'amende à laquelle a été condamné USF1?
20 000 euros.
Faux, quel sponsor déjà présent sur la Sauber à Barcelone a fait son retour à Valence?
C1.
Faux, quelle obligation pourrait avoir prochainement le personnel des écuries en Formule 1?
Avoir une combinaison, un casque.
Faux, quel est le montant des droits télé qu'empochera la 10e écurie du championnat?
Un million.
Combien?
Un million.
Faux. Pour les puristes, quel est le véritable anniversaire de Lotus à Valence?
Bah, 500e Grand Prix.
Bah, pour les puristes, c'est faux. Attention, nous revenons, quelle monoplace devrait utiliser Pirelli pour ses essais pneumatiques?
Putain. Je sais pas.
Quel pilote non-ibérique a couru à domicile à Valence? Un indice, il est non-ibérique.
Oui, oui, bah un portugais, mais je sais pas, moi...
Non, il est pas portugais, il est non-ibérique.
Schumacher.
Faux, et c'est terminé.
C'est quoi ta question?
Alors, nous avons un score d'Enzo de 1 point sur le... sur le sprint de l'actu. Et donc, nous avons au sortir de cette deuxième manche, Gigi qui mène 5 à 4. Alors, attention, nous allons revenir sur le tas de questions auxquelles répondre Enzo. Alors ensuite, quelle monoplace devrait utiliser Pirelli pour ses essais pneumatiques?
BMW Sauber?
Non, c'est une GP2.
Ah, oui, le nom de... putain. Voilà.
Le nom de Toyota a circulé, effectivement, mais eux, ils ont dit que Toyota, ils pouvaient pas savoir si c'était fiable, quel était le coût exactement de fonctionnement qu'elle allait avoir. Ils préféraient s'engager sur chose, soit sur une vieille GP2, enfin soit sur une GP2, soit sur une vieille monoplace. Quel pilote non ibérique a couru à domicile à Valence?
Ah, à domicile.
Il est pas ibérique, mais il est sibérique.
Petrov.
Oui, c'est Petrov, Vitaly Petrov, qui vit à Valence, parce que son ancienne écurie, Barrois Adax, anciennement Campox, était stationné à Valence, donc il s'était installé
alors,
à Valence.
Il faut savoir que Schumacher a aussi une maison, là-bas. Il dit aussi qu'il est résident. Donc, je m'accorde un point.
Quel défi les ingénieurs McLaren ont-ils posé à leurs pilotes?
Monter une voiture?
Oui, c'est on leur a demandé... de remonter leur F1, c'est pour une pub pour Vodafone, et d'ailleurs je vous la conseille vraiment parce qu'elle est très rigolote. Dans quelle catégorie Romain Grosjean a-t-il fait son retour? En monoplace?
AutoGP?
En AutoGP, bien Shinji. Quel est le montant de l'amende à laquelle...
C'était comme truc.
Non, c'était simple. Quel est le montant de l'amende à laquelle a été condamné USF1?
Je sais pas.
209 000 $.
Quel sport, alors j'ai accepté une réponse approximative, mais là 20 000 c'était trop approximatif. Quel sponsor déjà présent sur la Sauber à Barcelone a fait son retour à Valence? Ça n'était pas C1, mais c'était...
Sauber?
C'était Burger King. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sponsors sur Sauber. C'était tout simplement Burger King. Ah,
et il y avait C1 aussi, je suis désolé.
Non, il y avait C1, mais C1 ce n'était pas à Barcelone.
Ah, à Barcelone. Ah.
Monsieur, j'essaie de récupérer des points.
Non, mais attends, il faut laisser gagner Shinji aussi.
Alors, quelle obligation pourrait avoir prochainement le personnel des écuries de Formule 1?
Avoir une licence.
Oui, avoir une super licence, tout comme les pilotes. Ouais. C'est, je pense, notamment pour éviter les précédents à l'image de Briatore et donner une vraie autorité de la FIA en retirant sa super licence à un ingénieur qui aurait fait une faute.
Est-ce que ça marche aussi pour les journalistes? Parce qu'on risque de se retrouver sans journaliste chez TF1, du coup.
Ça risque d'être un problème, oui.
Rappelons d'ailleurs que malheureusement, à Silverstone, ce sera le dernier Grand Prix sans Denis Brogniart.
Oh,
et oui.
C'est triste.
Et oui. Mais elle a pris du galon, Marion.
Quel est le montant des droits télé qu'empochera la 10e écurie du championnat? Ce n'était pas 1 million, j'avais cru entendre la somme. La vraie somme, c'est 20 millions.
Mais c'est ce que j'ai dit. Ah non, on a dû être coupé. Non, mais on a dû être...
Non, j'ai demandé de répéter et tu as bien dit 1 million.
20 millions. Mais je suis un peu enroué.
Shinji, qu'as-tu entendu, toi?
Moi, j'ai entendu 1.
C'est bien, tu es fair play.
Tu parles.
Alors, faut savoir que c'est assez rigolo parce que bon, c'est une actu qui est pas forcément passée très sur toutes les ondes. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, lors d'une interview entre le président de Virgin et Tony Fernandez de chez Lotus, Tony Fernandez a lancé une phrase comme quoi, bah oui, on aimerait bien être 10e parce qu'il y a quand même 20 millions à la clé. Et au même moment,
ça déjà.
Oui, ça, c'est juste après le Grand Prix du Canada. Et au même moment, on a un autre journaliste qui posait la question à Richard Branson en lui demandant, quels sont vos objectifs? Et là, Richard Branson, en entendant qu'il y avait 20 millions, a dit, je crois que maintenant mon objectif c'est la 10e place. Et donc, pour les puristes, quel est le véritable anniversaire de Lotus à Valence? Ça n'est pas le 500e Grand Prix, mais c'est le, pour les puristes qui pensent que Lotus n'est pas Lotus, c'est le 9e.
Ah oui.
Ah. Alors, nous allons passer, après ce score de 5 à 4, en faveur de Shinji, mais nous savons que rien n'est gagné. Nous allons passer à la question actu qui passe inaperçue.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui passe inaperçue. Youhou ! L'actu ! Où es-tu ?
Alors, cette question actu qui passe inaperçue a été torchée à la dernière minute. Elle risque d'être flinguée, sans doute. Cette question est toute simple. Pour quelle raison Jenson Button pourrait-il être amené à déménager au cours de l'été ?
Il va se marier ?
Non.
Parce que il va avoir des travaux dans sa rue et son immeuble va être détruit.
Non. Il y a quand même un petit lien avec la F1. Non.
Pour être plus près du circuit, de l'usine.
Non, parce qu'il vit déjà en Angleterre, je crois. Donc.
C'est lié à un des grands prix qu'il y aura cet été ?
Non.
Parce qu'il veut avoir un chien et il n'a pas de jardin.
Il aura pas un chien et il a pas besoin de jardin.
Parce qu'il... Ah, je sais. Parce qu'il lui faut un garage pour mettre sa Brown Grand Prix de l'an dernier.
Ah, bravo Enzo. Alors, peux-tu nous raconter l'histoire? Alors, bravo Enzo qui gagne, hein, oui. 14 à 5.
Eh oui.
Peux-tu nous raconter l'histoire, Enzo?
Eh ben, Brown avait promis à Button la Brown de l'an dernier, sauf que Mercedes tiquait à lui donner dès maintenant pour des raisons de secret technologique. Et en fait, ils en ont reconstruit une nouvelle, je crois, pour lui, quoi. Parce que dans un premier temps, ils ont dit qu'il pouvait pas parce qu'il n'avait pas eu assez de châssis de fait, etc. Et patacouta.
Et en plus, c'est ça le truc, c'est qu'ils lui ont proposé de reconstruire un châssis, et lui a dit non, il voulait, dans son contrat, il avait stipulé qu'il voulait, comme quoi le mec avait senti, hein, et c'est ça aussi pour laquelle je voulais faire cette actu, même si elle a été visible sur pas mal de sites. Ce qui est super intéressant dans cette actu, c'est qu'on découvre que, au moment de renégocier son contrat avec Brown au début de la saison 2009, il a fait insérer cette clause disant que comme quoi, s'il était champion du monde à la fin de la saison, Brown lui donnerait la voiture avec laquelle il a été champion du monde. Donc quand même, le mec, il avait déjà vu le potentiel de sa voiture au moment de négocier le contrat, il avait déjà senti qu'il avait le potentiel d'être champion du monde. C'est bon, c'est pas De La Rosa qui met ce genre de clause dans son contrat, par exemple.
Eh bien, si, figure-toi, elle existe.
Et donc effectivement, en fin de saison, il a demandé sa voiture, sauf que Brown lui a dit non pour des raisons du fait qu'il n'y avait pas assez de châssis qui étaient faits. Je crois qu'ils en ont fait 7 ou 8, ce qui n'est pas suffisant, hein, pour donner une voiture à Button. Comme l'a dit Enzo, c'est sans doute surtout dû au fait du secret technologique. Et du coup, Mercedes a proposé à Button de lui construire un nouveau châssis et de lui donner. Et Button a dit non, moi je veux la voiture avec laquelle j'ai été champion du monde. Et donc il y a eu un procès. Il y a eu une procédure justice qui s'est apparemment résolue à l'amiable. Ils se sont mis d'accord pour livrer une BGP-01 à Jenson Button dès cet été. Mais ma question était pas totalement vraie parce que
oui,
il aura
ce que
pas
j'avais besoin. Dit, est-ce qu'il avait vraiment besoin d'agrandir sa maison pour ça?
Oui. Il a pas besoin d'agrandir sa maison puisqu'il a déjà un garage bien fourni. Et il a récemment fait de la place cet été puisque il y a moins d'un an, il a juste vendu sa Bugatti Veyron. Prenez un petit peu de temps, hein.
Oh mon Dieu.
Alors, c'est assez rigolo, il a quand même une vraie collection de voitures. Est-ce que vous avez déjà quelques idées de voitures qu'il pourrait avoir dans sa collection?
Ah, il y a ce Benetton.
Alors, il y a
Honda, il y a pas d'autres F1?
Il y a pas d'autres F1, ça sera la première F1 qu'il a dans sa collection.
Oh, il peut avoir de la Ferrari quand même.
Alors, il y a une Ferrari, c'est la Ferrari Enzo.
Ah oui,
une Porsche?
Il y a une Porsche, mais c'est une Porsche Carrera GT.
Une Mercedes. C'est le cas.
Alors, il y a deux Mercedes, il y a la CLK AMG DTM, et il y a la C63 AMG. Et enfin, les deux autres constructeurs allemands.
BM?
Il y a BMW, la M5.
Et puis une Audi.
Une Audi RS6, sans oublier la Bugatti V.
Et il n'y a pas une Pulsatis.
Non, il n'y a pas une Pulsatis.
Mais Twingo, je sais pas.
Ah, ouais, ouais. Alors, dans une Twingo, ça doit être à mourir de rire. Mais, savez-vous quelle est la voiture qu'il rêverait d'avoir dans son garage et que peut-être il aura un jour?
Une Ferrari de F1?
Pas une Ferrari.
Une McLaren, dans ce cas?
Une McLaren, oui. Mais pas une McLaren avec laquelle il aura gagné un championnat.
Non, la McLaren de course, de route, ça peut être, là.
Non. Une vraie McLaren de course, une vraie McLaren F1.
Une MP4-12, comme ça?
Ouais,
non, une MP4-2C. La MP4-2C de Alain Prost. qu'il va prochainement essayer, je crois, lors du festival de Goodwood. Il va essayer la MP4 2C d'Alain Prost, et il a dit que c'était l'un de ses rêves de conduire cette voiture. Et on se rappelle, alors, on parlait justement d'avoir une McLaren avec laquelle il serait champion du monde. On se rappelle, si je me souviens bien, que lorsqu'il avait été champion du monde, Lewis Hamilton avait reçu une McLaren, mais une McLaren d'usine.
Oui.
Et en fait, quand il était arrivé, il avait dit « Si je suis champion du monde, je veux la voiture qui se trouve dans le hall. » Sauf que la voiture qui se trouve dans le hall, c'est la McLaren de Formule 1. Et Ron Dennis lui a dit « Non, non, ça tu l'auras quand tu seras 3 fois champion du monde. » Donc, Button va peut-être devoir attendre avant d'avoir la McLaren.
Fin 2011, ça sera bon.
Voilà.
Voilà.
Donc voilà, c'était tout pour le poleman de l'actu sur cette nouvelle victoire, la 3e de la saison d'Enzo, sur le score final de 14 à 5. Bravo.
Bravo. Allez, on passe au Grand Prix de ce week-end avec la qualif. Ça devient monotone, j'ai envie de dire.
Oh non, on peut pas dire ça après la qualif d'Hamilton au Canada. Là, on revient à une situation.
Bah voilà, c'est...
Voilà, c'est inédite, quoi. Bon, ouais, honnêtement, du mon point de vue, je trouve qu'on a trop vu Lewis Hamilton en pôle. C'est mon point de vue.
Et donc, c'était le premier coup de boutoir allemand du week-end. Hein. Bah oui. Le
premier coup de boutoir allemand, mais on ne sait pas ce que fait Michael Schumacher de ses soirées. Tout de suite, tu déduis des choses.
Je ne parle que de sport. Hein.
Ah,
mais bah, t'en mets.
Donc, Sébastien Vettel sur Red Bull Renault. Sa 9e pole position. La 13e pour Red Bull.
Il commence à dire qu'il y en a 4 qu'il a pas eu.
Exactement. Et la 168e pour Renault. À une moyenne de 199,908. Il a même pas atteint les 200. Fait même pas bien son boulot. Petit joueur.
Et Shinji, mais quelle est la place du con?
Eh bien, cette semaine, la place du con est pour Rémy Alguersuari, qui n'a pas été prophète dans son pays. Ah non, même pas, c'est même pas Alguersuari, c'est Kobayashi.
Ah oui.
Oh, le coup.
Comme quoi, hein, on peut partir de loin et faire une belle course. À noter aussi, Schumacher 15e.
Oui.
Ça va de mal en pis, tout ça, hein.
Bah bientôt, il aura la place du con. Alors justement, pour la place du con, je vais lancer une petite idée comme ça pour faire un petit jingle spécial de la place du con. Ça serait bien que tous nos auditeurs qui sont disponibles actuellement, qui ont le matériel, nous envoient un tout petit fichier MP3 en disant « Oh, le con !» Et on fera un montage, comme ça on aura un « Oh, le con !» collectif de tout le SAV.
Oh,
voilà.
C'est une très belle idée.
Mm-hmm. Les idées à la con, moi.
Les idées à la con, voilà, exactement. Oh. Quelque chose à rajouter sur la qualif?
On peut quand même noter d'abord la belle qualif des pilotes Williams, qui se sont classés 8e et 9e, mais qui ont aussi réalisé l'exploit de se classer tous les deux 8e et 9e avec le même chrono.
Oui.
Hein, une 38, 428 pour les deux. Et ils ont été, en fait, départagés au fait que Hülkenberg avait fait son chrono avant
Barrichello. C'est le principe, oui.
Est-ce que vous vous rappelez la fois où il y en avait eu 3 qui avaient fait le même chrono? Est-ce que vous pouvez me dire quand? Et quel grand prix? C'est non préparé ça en plus. Je te le fais sans fidèle.
Alors honnêtement, j'ai vu ça il y a pas longtemps, mais alors, je suis incapable de donner la réponse.
Eh bien, c'était au Grand Prix de Portugal 97, le dernier Grand Prix où le titre se jouait entre Villeneuve et Schumacher. Et ouais. De mémoire, on avait Hill, Frenzen et Villeneuve.
Non, je crois que ouais, il y avait Villeneuve.
Oui, en effet, Villeneuve devant Schumacher devant Frenzen en 1:21.072.
Et c'était pour la pole ou c'était plus loin?
C'était pour la pole.
En plus.
Premier, deuxième, troisième.
Et c'était le dernier Grand Prix de
la saison.
De Renault. Non, mais de Renault aussi quand
même. Ah oui.
Touriste. Et c'est pour ça qu'ils avaient fini par le Grand Prix d'Europe d'ailleurs pour finir en Europe. Et donc les trois avaient fait le même temps, Villeneuve, Schumacher et Frenzen.
Allez, on passe à la course et au top 10. Et donc, dans le classement, on va d'abord citer ceux qui ont été nommés. Hein.
J'adore Shinji quand il dit « et donc ». Parce qu'on a l'impression qu'il veut nous raconter un conte de fées. « Et donc ».
Donc, ont été nommés, mais sont hors des points.
Ouais, j'adore ça.
Notre septuple champion du monde,
qui
Michael Schumacher. D'après toi, qui a osé? Et pourtant, souviens-toi Enzo, la semaine dernière, il nous avait dit des choses et ça nous avait surpris.
C'est Dino.
Hein.
Oui, mais je l'ai pas mis haut non plus, je l'ai mis dixième.
Oui, elle est dixième.
T'avais personne d'autre?
Non, mais alors je l'ai mis parce que pour la raison toute simple, c'est que bon, il a eu un début de course catastrophique et sa qualif apparemment, elle était aussi due en partie à un problème de direction apparemment. Mais il a fait une bonne fin de course, je trouve, contrairement à l'Australie où il avait été quasiment inexistant en fin de course après sa mésaventure du début de course. Là, malgré ces circonstances où il a fait deux arrêts, je crois en 2-3 tours.
Il y a un moment, on les sentait carrément à la rue, quoi.
Où il a pris un feu rouge qui fait hurler du côté de Mercedes. Non, je trouve qu'il a pas été merveilleux, mais voilà, j'avais envie de me dire voilà, pour une fois dans la saison, je le mettrai.
A aussi été nommé. Alors là, c'est les auditeurs, et encore, je dis les auditeurs, mais c'est surtout parce que Bilot l'a mis quatrième. C'est Felipe Massa.
Comment on peut mettre Massa quatrième?
Parce qu'il était moins largué par rapport à Alonso que d'habitude, on peut dire.
Peut-être, oui.
Donc je respecte ce choix.
Et à noter aussi que moi j'avais mis un petit point pour De La Rosa, qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis le début de la saison.
Ça fait deux fois qu'il marque un point, qu'il se fait dégager la dernière seconde.
Voilà. Donc c'est vrai que là, il a pas eu de bol vraiment à cause de ses affaires de pénalité. Hein. Donc voilà, moi j'ai décidé de lui mettre un petit point. Bon, bah, j'ai été le seul. Tandis qu'on parle de De La Rosa, vu qu'il n'y a pas grand chose non plus à dire de De La Rosa, on peut peut-être revenir sur ses affaires de pénalité. Hein, parce qu'il a quand même été celui qui a été dégagé. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui ont bougé de place à cause de cette pénalité.
Il y a De La Rosa, il y a Buemi.
Voilà.
Et qui c'est qui a hérité d'un point alors?
C'est Alonso et Rosberg qui a hérité d'un point.
Ah, alors Rosberg rentre dans les points en fait.
Ouais.
Puisqu'on nous a donc inventé le 5 secondes de pénalité. Je rappelle quand même que lorsque Schumi s'en est pris 20, on nous a expliqué que on pouvait pas mettre autre chose que 20 parce que c'était dans le règlement.
Oui.
C'est ce qu'on nous a dit hein, à l'époque.
Oui. C'est quand même très fort parce que c'est quand même 9 infractions au règlement qui a été clarifié, enfin précisé lors du Conseil mondial de mercredi ou mardi, je crois. Donc tout le monde était quand même au courant de cette règle et
appris leur leçon.
Et je pense que voilà, ils savaient pas trop quoi mettre comme sanction, ils voulaient pas être trop sévères. Et voilà, le problème c'est qu'ils ont donné un degré à cette faute qui est ridicule. Contrairement à un départ volé qui, honnêtement, un départ volé ça rapporte quoi? Ça rapporte une demi seconde. On te donne 25 secondes
ouais.
Voilà, un départ. Alors que là, sur un tour rapide, honnêtement, il y a des pilotes qui ont pu gagner des grosses poignées de secondes et ils sont pénalisés que de 5 secondes. Donc ça veut dire que c'est vraiment un degré de faute qui est bas. À la limite que ce soit bas, d'accord. Le problème, c'est que maintenant, il va y avoir peut-être des stratégies de calcul. Je le disais déjà sur le site il y a quelques temps, je crois hier. Et il y a déjà des voix en Formule 1 qui commencent à dire attention, parce qu'il y a des écuries qui vont peut-être commencer à calculer en se disant oh baf, on peut demander au pilote de rouler à fond, il gagnera 10 secondes sur les autres, ouais. Il va en perdre 5, ça fera 5 secondes de gagner.
Et on en revient toujours à l'idée d'avoir un règlement, une liste des pénalités pour les différentes infractions de commises.
Je sais plus qui le disait parmi les commentaires, mais c'est vrai qu'on a cette impression d'être passé d'une situation très sévère au grand n'importe quoi cette année.
Mais c'est même le paradoxe, c'est-à-dire que nous qui l'année dernière défendions l'idée d'une application plus intelligente et plus réfléchie, là on est obligé même de redemander en fait de la sévérité et de l'application bête et méchante du règlement.
Mais que fait
parce
la
que
police
là,
on veut juste de l'intelligence quoi, c'est tout.
Mais intelligence c'est FIA.
Donc passons au classement, parce que c'est ce qui compte. Donc Hülkenberg qui finit 10e avec un petit point, qui a été cité, alors, pas par moi, hein, bon, en même temps j'ai mis De La Rosa,
ouais.
Mais par toi Dino et par toi Enzo, qui vous l'avez mis respectivement 7e et 8e. Donc Hülkenberg et surtout Williams ont fait quand même une très belle course. Hein. Bon, Hülkenberg n'a pas eu de bol, il n'était pas content d'ailleurs. Je n'aurais pas aimé... J'aurais pas aimé être à la place du pneu.
Il était un peu vert, Hulk.
Ouais.
Il a fait d'abord une super qualif. Bon, il s'est fait un peu remettre à sa place par Barrichello au départ.
Ouais.
Et après, il a fait une très bonne course. Il a pas fait d'erreur pour une fois. Il commence peut-être à tirer les conclusions des leçons qu'il a pris lors des 8 premiers Grands Prix. C'est pas mal.
Alors que, bizarrement, un Petrov, lui, retombe dans la nominima.
Ouais.
Lui, il remonte sur le devant de la scène, quoi.
Encore une fois, Williams, qui, bon, pas à chaque circuit urbain, mais qui, ils ont tendance à être un peu à l'aise quand même.
Mais c'est à croire, en fait, qu'il y a que les circuits urbains qui les intéressent.
Oui. Allez. On va passer à un pilote Toro Rosso.
Bumi.
C'est Bumi, oui, à la 9e place.
Moi, j'ai dû le mettre.
Bah, non, tu l'as mis. Moi, je l'ai mis 9e, comme les auditeurs. Et donc, bah, Enzo, tu l'as mis 7e. Et tu l'as mis 6e, c'est ça.
J'ai mis 6e.
Donc, c'est encore à toi d'en parler. Ah si, forcément, à un moment, je le mettrais plus que toi. À moins que ce soit Finji à ce moment-là.
Non, enfin, voilà, il fait une bonne course, quoi, mais... En même temps, je l'ai mis 9e, hein.
Mais pourquoi tu demandes à Shinji de défendre Bumi? Il a mis 9e et...
Je lui ai dit, à moins que ce soit... J'ai expliqué que là, c'était à toi parce que tu l'as mis plus haut que moi, et que la prochaine fois, forcément, il y aura un moment où j'aurais mis quelqu'un plus haut que toi. Et je dis, à moins qu'à ce moment-là, ce sera Shinji qui l'a mis encore plus haut. Donc, ce sera Shinji
Bienvenue dans l'explication du SAV, comment ça fonctionne.
Donc, en gros, il n'y a rien à dire sur Bumi.
Mais oui, il y a des choses à dire.
Oui, à la fin.
Oui, c'est fait avoir à la fin, mais faut aussi tenir compte des pneumatiques.
Ah, il en avait 4 comme tout le monde.
Oui, mais ils étaient particulièrement usés alors qu'il s'est fait bouffer par Kobayashi qui venait juste de rentrer avec des pneus frais. Mm. Donc voilà, et puis il fait encore une fois, il rentre dans les points, il est en 9e position, il marque 2 points. Mm. Non, c'est un bon week-end, c'est dans la lignée des week-ends. C'est aussi bien qu'un Sutil par exemple.
C'est bien, il permet à Toronto de pas se faire doubler par BM, enfin par Sauber.
Oui.
On va pas chez nous.
Non, non. Dans l'autre classement. Eh bien, passons au 8e. C'est con, j'ai pas de transition. En 8e.
Oui, c'est pas la première fois.
On va pas savoir, t'en trouves une, tu te démerdes.
C'est pas la première fois qu'il y en a pas.
Oh, bah non.
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, chers auditeurs, si vous avez des transitions, n'hésitez pas à les envoyer à Shinji.
Voilà.
Ouais. Donc, 8e, Shinji, qu'avons-nous?
Nous avons le Polonais Robert Kubica.
Putain, il est haut.
Oui, bah, moi je l'ai mis 7e, les auditeurs l'ont mis 8e, et Enzo, 5e.
Et Dino, il l'a mis 4.
Dino, il l'a mis nulle part.
Oh là.
Allez, à toi de parler, Enzo.
Eh bien, c'est pas mal. Non, je pense que... Non, mais bon, au final, il est là, mais je pense que on l'a beaucoup surestimé pendant les essais, on s'attendait, je pense, à une... bien meilleure position des Renault et en qualif, du moins de sa Renault, et en qualif en course. Mais finalement, il a fait une course assez insipide quand même. Mais bon, il est là, à l'image d'un Nico en début de saison. Toujours là.
Toujours.
Parce qu'il y a quand même assez étonnant chez Renault, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas eu de gros pépin mécanique pour le moment.
Non.
Il y a une capacité qui a l'air plutôt bonne et il y a une progression qui est pour le moment la plus impressionnante de toutes les écuries parce que ils font des progrès de plus en plus et là ils sont clairement en train de prendre
ils s'approchent à
l'avantage sur Mercedes.
Ah ouais, ils sont pas spécialement loin, il y a encore un écart mais oui à ce rythme là surtout que je ne donne pas cher de la peau du développement de la Mercedes hein. Je crois qu'ils vont plutôt se tourner vers 2011. Enfin bon, passons. Bon, Dino, on ne demande pas pourquoi tu l'as pas mis, parce que tu l'as pas vu.
Pas vu, pas pris.
C'est logique. Allez, à la 7e place, le pilote Force India, Adrian Sutil, que tout le monde a cité. Enzo l'a mis 6e, les auditeurs l'ont mis 7e, et toi et moi, on l'a mis 8e.
Eh merde.
Allez Enzo, à toi.
Eh ben, parce qu'il y avait personne devant lui.
Bon, moi personnellement, je commence à être fatigué de ces courses où il part 13e et il arrive 8e et tout le monde dit « Ouais, il a fait le bon boulot ».
Ouais, non, mais d'un côté qui mérite plus de points devant, là. Moi, j'avais du mal, hein. Franchement, j'ai eu du mal, ce classement. Parce qu'il y en a qui étaient devant, mais que je voulais pas mettre trop haut. On y reviendra. Mais voilà, quoi. Et puis, il y en a d'autres, ils ont pas eu de bol, mais ils méritent pas d'être devant non plus, quoi.
On leur donne beaucoup de points, parce qu'à chaque fois, on se dit « Ouais, c'est génial », alors qu'en fait, ça devient très habituel, finalement, pour Force India. D'être classé.
Bah ils se sont ils ont montré de un peu comme Renault, c'est ce que disait Enzo tout à l'heure. Renault je pense qu'on en a attendu beaucoup sur la qualif et Force India c'était un peu pareil parce qu'ils ont été apparemment pas trop mal lors des essais si je me trompe pas. Ils avaient l'air pas trop mal en début de la qualif puis ils se sont plantés, ils finissent je crois 13 et 14 tiers groupés en plein milieu de peloton. Il y a encore c'est un peu comme Red Bull, il y a encore un peu de jeunesse dans cette équipe mais c'est oui. Bien parce que on voit quand même c'est une équipe qui avance, qui progresse, qui Ils ont déjà travaillé sur le F-Dog, donc c'est déjà une écurie qui est en situation de pouvoir avoir du développement. Ils ont un bon duo de pilotes.
Ils visent le podium l'an prochain avec le Kers Mercedes.
C'est vrai. Et la victoire dans 2 ans. Et le titre dans 4 ans.
C'est vrai que question moteur, ils ont, enfin, c'est pas qu'ils ont eu du nez, parce que même quand ils l'ont pris, c'était déjà pas rien, le moteur Mercedes, mais je veux dire, c'était jackpot, quoi, parce que c'est vrai que depuis l'an dernier, quand même, le moteur Mercedes, c'est quand même le meilleur, on peut dire.
Alors, Renault, quand même, avec les Red Bull, il est pas dégueulasse non plus, hein.
Mais... Non, bien sûr.
Ça fait quand même quelques courses, quand même, que les Force India ne sont pas les dernières écuries à moteur Mercedes.
Oui.
Et que c'est plutôt les Mercedes qui sont les dernières écuries à moteur Mercedes.
À de là, est-ce que l'écurie Mercedes soit bientôt équipée de Renault?
Ah, ça serait beau, ça. C'est comme la McLaren Ferrari, moi j'en ai toujours rêvé.
Arrête.
Un moteur Ferrari, tout ça pour alors enfiler les vieux moteurs du début de saison qui avaient un problème, qui n'était pas fiable. Hop.
Comme ça confie la Sauber.
Voilà. Allez, en cinquième position. Car...
Ah, cinquième?
Eh oui, donc tu as noté. Ouais,
donc là, il y a des ex-écos à la con, là. Qui ça va être?
Alors, mon premier est un pilote britannique.
Lewis.
C'est celui qui ne s'est pas pris de pénalité.
Bah, Button.
C'est donc Button.
Et mon deuxième est un pilote britannique qui s'est pris une pénalité.
Non, mon deuxième est un pilote qui aurait aimé qu'il y ait encore plus de pénalités.
Non! Il est si loin que ça?
Mais oui.
Revenons d'abord sur Jenson Button, que j'ai mis sixième, Kenzo a mis quatrième, que les auditeurs ont mis cinquième, et Dino, tu l'as mis neuvième.
Ah, vas-y, justifie cette neuvième place alors qu'il finit sur le podium.
Oui, quand même.
Oui, mais honnêtement, il aurait pu finir deuxième. Alors même si on va dire que c'est difficile sur un circuit urbain comme Valence, où ça va vite, où il y a des virages en aveugle, etc. Sans emporter ombrage à Kobayashi et à Sauber, il a une McLaren avec un F-Duck, tu pouvais quand même à un moment donné sortir les doigts du cul.
Ah, ça va.
Vas-y, Enzo, fais-toi plaisir. Il fait comme ça. À un moment donné, se sortir les doigts du cul pour le dépasser. Il y a, je crois, que c'est Damien qui a dit sur le blog. Mais il a dit sur le blog peut-être justement, c'était parce qu'il savait que Kobayashi allait rentrer au stand, qu'il est resté derrière. Oui, mais en restant derrière, il perdait une seconde ou deux sur Hamilton, et avec la pénalité d'Hamilton, il pouvait être deuxième. Donc c'est, même si lui ne peut pas le savoir à ce moment-là, c'est ce genre de situation qui me laisse à penser que il faut impérativement qu'un pilote attaque, et que là je trouve Button, il a été passif.
Patient.
Il a été patient, je suis d'accord, mais il a été passif, parce que je pense qu'un Hamilton, un Alonso, un Vettel ou un Weber derrière Kobayashi, ils y font tout leur possible pour le dépasser, alors qu'on a vraiment une impression que Button, comme dit Damien, Button est resté derrière en attendant que Kobayashi rentre.
Parlons-en, Alonso, il a doublé BMI, il a pas été capable. Même moteur, faut arrêter. Ils auraient pu passer des consignes où, bon, je pense qu'il aurait attaqué, BMI aurait pas fermé les portes. Donc ne me dis pas, il a été passif. Alonso, il a été tout autant passif derrière BMI. Il n'a pas été capable de trouver la faille. Hein.
Oui, peut-être.
Je pense que c'est pas un circuit où c'est facile de
oui,
trouver.
Oui, on va l'oublier, oui.
Il faut vraiment qu'il y ait un gap vraiment très important. Puis revenons-en quand même à Button. Il a quand même un petit différent avec Kobayashi. Et il sait ce que ça lui a valu. Il a eu du mal avec lui les deux derniers Grands Prix de la saison dernière quand même. Hein.
Bah justement, ça aurait dû lui mettre les nerfs et donner envie de...
Oui, il s'est peut-être dit, assurons quand même, quoi. C'est un fou furieux, l'autre. N'en déplaise à certains. Mais il est un peu kamikaze. Faisons gaffe. Il a quand même été coéquipier de Takuma Sato. Button, il sait ce que c'est qu'un kamikaze, quoi.
Oui.
Non, mais honnêtement, non, moi, c'est surtout chez Button, autant il y a des moments où je trouve que c'est magnifique quand il est patient et quand je trouve qu'il arrive à transformer cette patience en art. En Australie, c'est magnifique ce qu'il fait. En Chine, c'est pareil. En étant patient et en étant sur un rythme qui est pas impressionnant forcément, il arrive à nous scotcher à ce qu'on se dise. Voilà, c'est le génie d'un pilote. Là, honnêtement, moi, j'ai pas trouvé ça génial et je trouve pas que ça mérite d'être devant d'autres pilotes.
Il finit combien d'Hamilton à la fin? T'as vu combien?
Il est pas très loin.
T'as vu
il est à...
comme une bombe à la fin, quoi.
Mais oui.
Il a aménagé ses pneus et après, il a pu attaquer alors que Hamilton avait plus de problèmes.
Non, moi je persiste à penser qu'il avait notamment, il avait les moyens pour passer et qu'il aurait dû, il aurait dû le tenter. Surtout que ça se sentait quand même un peu que Kobayashi allait ravitailler super tard et que donc en étant derrière, il allait perdre beaucoup de temps.
Je pense pas qu'il s'attendait à ce qu'il ravitaille aussi tard quand même, je pense.
Ouais.
Oui, mais nous sur le chat, on était déjà en train de se poser des questions à 20 tours de la fin. On se demandait si Kobayashi allait pas ravitailler dans le dernier tour, ce qu'il aurait dû faire d'ailleurs. Voilà.
Non. Il n'aurait pas dû le faire. Il n'aurait jamais pu redoubler les derniers sur la fin, quoi.
Oui, mais il aurait fini que 7e, Kobayashi, au lieu de finir 9e.
Mais il finit pas 9e.
Il finit pas 9e, non, mais hein.
Potentiellement, quand il sort des stands, il est 9e, même s'il va regagner deux places, il est 9e en sortant des stands. Alors que là, il aurait très bien pu, en rentrant juste dans le dernier tour, il était 7e.
Bon, ça, c'est pas sûr.
Bah oui, au moment où il a passé la ligne de chronométrage, bon, on y reviendra sur Kobayashi, mais au moment donné où il passe la ligne de chronométrage, sur l'écran, il avait écrit Kobayashi 7e. Donc en fait, il aurait pu techniquement être 7e, puisqu'il est en phase d'accélération, 7e ou 8e, et pas 9e.
D'ailleurs, il aurait pu s'arrêter et passer la ligne des stands dans les stands, justement.
Bah, il aurait pu, moi je pense que...
Est-ce qu'on a encore le droit?
Je sais pas si on a encore le droit, en fait.
Schumacher l'a fait, ça, je m'en rappelle.
Oui, je crois. Non, à Silverstone. Silverstone, pour 95 peut-être.
Oh, un peu plus tard, je crois.
Il était chez Benetton ou chez Ferrari? Non, il était chez Benetton.
Ah, j'aurais dit chez Ferrari, mais bon. Je ne sais plus l'année, donc.
Ah bah non, c'était une pénalité en 98 qu'il a pu jouer, donc, à Silverstone.
Waouh, quelle plus de science tu es, Enzo.
Oui, merci Statesman.
Merci de montage,
surtout.
Donc, on va passer à l'autre cinquième. Fernando Alonso. Que Dino, tu as mis cinquième.
Ah, bah alors,
que les éditeurs ont mis sixième. Que moi, j'ai mis quatrième. Et Enzo l'a mis deuxième.
Ah, bah voilà, on est dans la même situation.
Bah voilà, parce qu'il est incapable de doubler Buemi en fin de course. Il est complètement passif. Autant j'aime Alonso quand c'est un attaquant et tout ça, mais là je l'ai trouvé particulièrement passif et voilà.
Oui, mais lui il n'a pas été volé, donc.
Il n'a pas été volé. Non, il n'a pas eu de bol.
Il n'a pas eu.
Oui,
de bol.
Non, alors, c'est vrai. Il faut. Alors c'est vrai qu'il faut rétablir la situation parce qu'on dit il a été volé, etc. Lui-même l'a dit. Il l'a dit. Sa course, ça lui aurait rien changé. La safety car, la manière dont elle est rentrée, il aurait fini 9e ou 8e.
Oui.
Ce qui reproche justement la safety car, c'est le fait que lui soit 9e et 9e. Enfin 8e je crois à l'arrivée et que Hamilton soit 2e alors qu'ils auraient dû être 8e et 9e tous les deux.
Voilà. En plus Alonso n'a pas eu le souci des 5 secondes, je veux dire il a été d'un point de vue réglementaire c'est frustrant quoi d'avoir un mauvais résultat alors que tu as été exemplaire.
Je vais pas jusque là mais réglo.
Mais voilà, réglo.
Peut-être trop tendre. Moi, c'est peut-être un reproche que je ferais à Ferrari, c'est que on l'a vu avec le coup du diffuseur où ils avaient été un petit peu chétifs et naïfs dans leur interprétation du règlement 2009. Ils ont failli refaire le coup cette année. Là, sur le F-Duct aussi. Voilà, c'est peut-être aussi Ferrari qui est peut-être devenu un petit peu trop tendre. Il manque un mec qui a le vice dans la peau, quoi. Il manque un. Je suis désolé de le dire, mais il manque un Jean Todt.
Trop tendre, Dominicali.
Ça m'a
surpris d'ailleurs que dans F1 à la une, il dévoile carrément, je sais plus ce qu'il a dit, mais il a dévoilé une partie de la stratégie de Ferrari, quoi. Il me semble.
Oui, on lui a demandé en quoi, je crois que c'était avec quel pneu la voiture serait mieux, et il a dit oui, on sera mieux avec les pneus durs, comparé à Flavio, quand il nous faisait ses estimations d'essence, c'était drôle, quoi. Je veux dire, il savait pour tout le monde sauf pour Renault.
Ouais.
Ouais, c'est dommage parce qu'en plus on a bien senti quand même que la voiture repartait dans le bon sens.
Et plus que Alonso qui l'a montré, c'est Massa qui l'a montré. Parce que pour l'instant, pour une fois, il était pas très loin de son chef de file, justement. Donc on s'est dit, tiens, elle a progressé la voiture.
Ouais, ça a été visible et pour le coup, il faut que Ferrari continue, quoi. N'abandonne pas la voiture parce que ils reviennent dans la bonne direction. Mais en même temps,
je pense quand même que les 4 points, c'est ça aussi, je pense qu'il doit d'autant plus énerver Ferrari, c'est que ils sont sans doute dans la bonne direction pour revenir sur Mercedes, sur McLaren et Red Bull. Mais en même temps, ils réalisent une très mauvaise opération comptable qui qui commence quand même à leur coûter très très cher pour le championnat, où ça va vraiment être, va vraiment falloir que la voiture soit très bonne pour pouvoir combler le retard qu'ils ont désormais. Et voilà, je pense que c'est surtout pour ça aussi qu'ils sont super énervés, même si je trouve qu'ils ont tendance un petit peu à en faire un petit peu trop, mais je pense que ça se joue en se disant putain, on a une voiture qui revient dans la bonne direction et on fait une super mauvaise opération comptable dans la foulée. Mm. L'inverse de McLaren qui eux font une superbe oui. opération comptable, alors que justement ils y allaient en se disant bon là on va peut-être un petit peu subir à Valence parce que tout le monde arrive avec l'artillerie lourde.
Oui, il y a de quoi s'inquiéter à Silverstone. Hein.
Oui,
oui, ça sera peut-être comme Mercedes, ça marchera peut-être pas. Hein.
Peut-être, oui. C'est oui, vrai. Voilà. Donc rien d'autre à dire sur Alonso.
Bah, moi honnêtement, moi sur mon classement, je l'ai mis, je l'ai pas mis à la place parce qu'il aurait dû finir troisième. Bah, sans la safety car, il avait le potentiel pour finir troisième.
Ouais, on va dire ça.
Je l'ai mis cinquième. Voilà, je l'ai mis à sa place qu'aurait dû être la sienne par rapport aux autres pilotes, en comptant le fait que j'ai promu quelques pilotes pour des raisons purement personnelles. Voilà. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais en fait, dans mon esprit, c'est très clair.
À la quatrième place. Et là, attention, il faudrait que c'est un jingle, tu sais, le gros morceau de l'émission.
Lewis Hamilton.
Qui d'ailleurs, souvent, d'ailleurs, le gros morceau de l'émission tourne autour de Lewis Hamilton cette année. Ouais. Et donc, oui, c'est Lewis Hamilton que j'ai mis sixième. Non, qu'est-ce que je dis? Je l'ai pas mis sixième, je l'ai même mis cinquième. Que Dino, tu as mis quatrième. Que les auditeurs ont mis troisième. Pour le coup, on pourra rien reprocher aux éditeurs.
Ah ouais.
Et Enzo, ouais, mais j'ai envie de le comprendre, Enzo. Je veux dire, moi, son vote, je le comprends.
Parce que moi aussi, Enzo, je le comprends.
Oui. Parce que Enzo l'a mis dixième.
Ah, c'est beau, Enzo.
Oui, tout à fait. C'est beau.
Bah, honnêtement,
j'ai osé faire ce que.
Non, mais moi, je comprends quoi.
En fait, non, c'est bon. Il y peut rien. On va dire, il y peut rien que la FIA donne une pénalité qui n'est pas à la mesure de,
oui.
de ce qu'il a gagné. Et de voilà, de ce qu'il aurait pu perdre et qu'il a pas perdu, on va dire, quand même.
Disons que c'est pas tant sur la pénalité. C'est vrai qu'il a eu la pénalité standard dans ce genre de cas. Mais le problème, c'est que ça a été pris 20 minutes après l'incident.
C'est ça,
alors
c'est que
les images sont sans conteste.
Non, c'est plus que, encore une fois, c'est Hamilton.
Oui.
Et là, moi, depuis le début de l'année, ça commence à faire beaucoup, je pense.
Je c'est trouve ça. Que
ça commence à faire beaucoup. Et là, ça plaisante plus. Déjà, quand c'était dans les stands, bon, moi, j'avais dit que c'était, il y avait personne, donc c'était pas trop grave, etc. Mais là, c'est la voiture de sécurité. Et moi, je dis, faut pas rigoler ça. Il y avait un gros crash. Donc il y a même la voiture de médicale, il me semble, hein, derrière.
Ouais.
Donc voilà, c'était un peu limite.
Oui, parce que je me souviens, enfin c'était pas exactement la même chose, mais il y avait eu, je crois que c'était Rosberg à Singapour, vous vous souvenez? Et vous souvenez, il avait pris sa pénalité, mais le plus tard possible. C'est-à-dire que le drive-thru, c'est quelque chose, c'est dans les 5 minutes qu'il faut que ça soit appliqué. Ouais, sinon c'est trop tard.
Et ce que je comprends pas, moi j'ai un peu le drive-thru, ok, je suis bien, bon, c'est pas mal, mais pourquoi on nous refait plus les pénalités comme il y avait avant? C'était 25 secondes d'attente de pénalité.
Il y avait le stop and go.
Un stop and go, le drive-thru, moi je trouve ça ridicule.
Mais même, moi j'en viens même à me dire que, notamment pour le cas des, alors on a eu les fameuses pénalités là de 5 secondes, parce qu'il y a un temps imposé, etc. Pourquoi alors qu'il y a un système électronique embarqué qui est unique désormais, pourquoi est-ce que la FIA ne prend pas le contrôle de ces systèmes-là pour automatiquement, dès qu'il y a une voiture de sécurité, caler toutes les voitures sur un régime moteur maximal, on va dire 15 000 tours? Les voitures elles font des tours en 2 minutes parce que c'est le maximum que ce qu'elles pourront faire, mmh. Et on n'en parlera plus. Et
il y a bien un bouton de limiteur de vitesse, donc c'est possible.
Hein. Oui, voilà. C'est pas de la commande à distance non plus, quoi. Le limiteur, non. C'est quand même. Il faut laisser la possibilité au pilote d'agir lui-même dans sa voiture. Tu peux pas dire.
Non, mais
t'as un système qui bloque à distance, c'est trop dangereux. Non, ça peut.
Disons que attention, je dis pas, faut tout d'un coup dès qu'il y a un safety car, on appuie sur le bouton sans prévenir les pilotes. Faut prévenir les pilotes. Attention, dans 10 secondes, déploiement de la safety car. Dans 10 secondes, vous allez réduire votre régime moteur. Et soit c'est eux qui les réduisent, soit
pourquoi pas,
bah, oui. On le réduit pour leur compte. Pourquoi je pense qu'il faut... la mauvaise idée de la FIA, ça a été de dire, oui, pendant les safety cars, il y a un temps imposé qui sera décidé par rapport au temps qui sera réalisé pendant la troisième séance d'essai libre à la 12e minute, en fonction de la règle des 107%.
Faut pas aller trop lentement, faut pas aller trop vite.
Il faut dire, voilà, une voiture aujourd'hui, elle est limitée à 18 000 tours. Quand il y a safety car, on la limite à 15 000 tours. Voilà, on prévient les pilotes avant, soit ils le réduisent eux-mêmes à 15 000 tours, soit c'est nous qui le réduisons. Dans ce cas-là, ils sont au courant. Et il n'y a plus de polémique, il n'y a plus de Vettel qui est devant la safety car, d'Hamilton, parce que c'est ça aussi. En même temps, Hamilton, on le comprend. J'ai envie de le comprendre. Pourquoi il dépasse la safety car? Il est juste à côté. Il tente sa chance, parce qu'il sait très bien que lui va se faire coincer et pas Vettel.
Bah, il a voulu jouer sur le fait que la safety car était encore dans la voie de sortie des stands, donc pas encore réellement sur la piste. Et on voit bien, ils sont en parallèle, et voyant ça, Hamilton accélère. Mais non, ça n'a pas marché.
Non mais moi j'ai vraiment le sentiment, c'est un peu et bon c'est du Hamilton tout craché, mais quelque part t'es sur la route et puis t'as une voie d'accélération à ta droite et t'as une ambulance qui veut passer, je suis désolé, mais tu laisses passer, tu n'accélères pas pour qu'elle passe derrière quoi.
Oui.
Et pour moi c'est la même image quoi.
Ah oui.
Et pour ça il méritait beaucoup plus. Moi limite je l'aurais disqualifié.
C'est ça malheureusement le problème d'Hamilton, c'est que des petites erreurs comme ça éclipsent le reste de sa prestation. Encore une fois, avec une McLaren, pourtant on disait qu'il serait moins bonne que la Red Bull et peut-être la Ferrari, il fait encore une très bonne qualif, il fait encore une très bonne course, même si McLaren a dit oui, ce qui est dommage, c'est cette pénalité nous fait perdre l'occasion d'attaquer Vettel. Oui, enfin, Vettel il avait déjà 5 secondes d'avance.
Ouais.
Je vois pas ce que Hamilton il aurait été faire.
Allez, à la troisième position, le pilote Williams, Rubens Barrichello, que Dino a mis troisième, que j'ai mis troisième, Kenzo a mis troisième, et que les auditeurs ont mis quatrième. Très belle course quand même de Barrichello et de Williams.
Ça lui a réussi, hein, oui, circuit. Oui.
Bah, disons que Barrichello, il a l'expérience, il sait profiter de sa voiture.
Voilà, ah. il a vraiment exploité sa voiture du mieux. Il a pas fait une course, on l'a pas vraiment beaucoup vu.
Ah, on l'a pas vu du tout.
Ça me fait totalement regretter tout ce que j'ai pu lire depuis des années. Barrichello la barrique, qu'il fallait qu'il se retire, etc. Aujourd'hui, c'est limite, j'ai même pas envie qu'il se retire à la fin de saison. Je me dis, s'il est encore capable de nous
sortir. Mais il sera encore l'an prochain.
Ah, mais de son, oui, il sera encore.
Et pourquoi pas, Barrichello, champion du monde en 2011, chez Williams.
À 50 ans.
Chez Williams.
Chez Williams Renault.
Bah, il invente un truc l'an prochain. Qu'est-ce qu'il va avoir comme changement? Les pneus? Imagine qu'il trouve un système pour mieux exploiter les pneus Pirelli.
Ouais.
Bah, lui, il les a connus, les pneus Pirelli.
Non.
Non, quand même pas.
Bon, il est vieux comme il est. Elle est de Pirelli, c'est jusqu'aux années 80. Hein.
90.
Elle est pas très loin. Hein. Il débute en 91 et il aurait
pu. Non, il a commencé en 94, en 93 déjà, il avait débuté.
Oui. Ah oui, effectivement, c'est Schumacher qui commence. Ah, donc Schumacher, peut-être les connaît.
Alors Schumacher, je crois que son premier Grand Prix ou ses premiers Grand Prix chez Benetton, je crois qu'il avait des Pirelli, effectivement.
Oui, parce que je crois que justement la dernière équipe à avoir des Pirelli, c'est Benetton. Non, rien envie de dire de plus sur Barrichello, sur la voiture.
Ouais. Bon, superbe course. Mais c'est dommage qu'on les ait pas plus vus, parce qu'ils méritaient. C'est vrai, pour les...
finale, quatrième.
Côté, bon, il profite, je pense qu'il est là, il est à la bonne position lors du safety car, voilà quoi.
Bah, là encore, c'est l'expérience quoi.
Puis je pense aussi que dans notre classement, il bénéficie aussi du fait d'être entre guillemets que sur une Williams, là où les autres devant ont entre guillemets un peu moins de mérite à être devant.
Oui, mais c'est normal.
Sur des grosses voitures. Donc là et voilà, on le met devant des Hamilton ou des Alonso. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis devant, parce que j'estime que avec la voiture qu'il a, faire un quatrième temps, c'est
oh, tout à fait. Tout à fait. Chose qui se confirme avec le deuxième.
Oh.
Que j'ai mis deuxième, que Dino a mis deuxième, Kenzo a mis deuxième, que les auditeurs ont mis deuxième. D'ailleurs, il y a pas grand monde qui a pas dû mettre deuxième. Bah, c'est-à-dire que le premier était vraiment... Enfin bon. Donc, deuxième...
Genre, il y a un mystère sur l'identité du premier.
Oui, mais bon, chaque chose en son temps.
Bah, c'est Weber, non
hein. Déconne pas, il a eu des points à Weber. Kobayashi, donc, qui est deuxième du classement du SAV cette semaine. Après, quand même, c'est vrai que c'est une très belle course. Même si, bon, il y avait... c'est vrai que t'en as parlé, il y avait l'arrêt qui était inéluctable. Ouais. Comme les écarts étaient pas non plus gigantesques, mais c'est bien, au moins, ça, c'est, enfin, ça s'est bien retourné finalement, parce qu'avec ses pneus frais, il a pu regagner deux places.
On a revu le Kobayashi qu'on a vu chez Toyota, et je dirais même plus, c'est encore mieux, parce que là, il était dans une Sauber. Il a profité avec intelligence de son du safety car, mais il a quand même su tenir sa position.
Oui, il a tenu. Il a même
pu. Même s'il n'a pas eu affaire à un button très très choquant.
Enzo, envie de dire quelque chose sur la course de Kobayashi?
Non, moi je c'est un pilote que je pense pas trop mauvais, et donc course solide, pas d'erreur. Il tient un button derrière lui.
Puis ça
Je pense que ces deux courses de l'an dernier ont payé pour lui, pour que Button se tienne à carreau, et voilà.
Et puis c'est bien de revoir Sauber quand même.
Perso, Sauber, c'est jamais une équipe, ça a jamais été une équipe qui m'a fait rêver.
Ce que j'aimais bien dans la première Sauber, c'est que c'était encore une équipe, je trouve qu'il y avait un côté jeune équipe, une vraie équipe de milieu de peloton, quoi.
Ouais.
Oui, c'est vrai que pour sa première saison, elle a fait fort en tout.
J'attends toujours un peu de revoir, puis j'ai tellement de mal avec cette voiture.
Ah bah, elle est laide. Ah, elle est laide, hein. C'est pire qu'une BMW, quoi.
Et puis alors, quel bon goût ils ont pour mettre leur sponsor, hein.
Oh, putain, mais c'est pas possible.
Mais ils en ont qu'un sponsor, à chaque fois ils sont bien obligés de mettre en évidence.
Mais bon, ils pourraient essayer de soit plus, enfin voilà, quoi. Ça fait vraiment le truc collé, quoi, sur la bagnole, quoi.
Mais disons que Sauber n'a pas la chance de Virgin de pouvoir mettre 15 sponsors alors que c'est le même.
Oui.
De Virgin, c'est ça, quoi. C'est une voiture avec des centaines d'autocollants, mais c'est que du Virgin. Virgin Galactic, Virgin Megastore, c'est que du Virgin. Alors que Sauber, ils ont que Sauber. Ils ont
deux sponsors,
Watsi et Burger King.
Il y en aura peut-être un troisième. Qui sait?
Le S avait de la F1.
Ah ouais, arrêtez, ça serait cool de leur proposer. On vous donne 100 euros pour un champion. Ouais, d'accord.
Ouais, super, ouais.
Non, mais on a dit 100 euros, pas 100 000. Ouais, non, mais vous avez dit 100 euros, on a compris 100 centimes.
Sauber qui va garder en plus son nom de BMW Sauber pour l'instant.
Non. Je croyais que ça avait été accepté de changer.
Ça a été accepté pour la fin de la saison.
D'accord, donc c'est... Ouais.
Parce que je me murmurais même qu'il serait obligé de le garder cette année et l'année prochaine. Parce qu'en fait, BMW... Oui. Par rapport aux accords Concorde, le nom BMW devait rester, si vous voulez toucher de l'argent, devait rester jusqu'à la fin des accords Concorde.
Ouais.
Donc jusqu'en fin 2011, début 2012. Donc là, la FIA a compris la situation et a dit, bon bah écoutez, vous retirez le BMW à la fin de la saison. Et
La FIA a dit ça, mais est-ce que Bernie a dit ça? Les droits à télé, c'est Bernie, hein, c'est pas la FIA. Hein.
En tout cas, c'est le Conseil mondial qui a dit que ils étaient d'accord.
Ouais.
Maintenant, il faut peut-être s'arranger avec Bernie.
Et donc, en première place, je l'ai mis premier, vous l'avez mis premier, les auditeurs l'ont mis premier, y a-t-il seulement quelqu'un qui ne l'a pas mis premier?
Ah, eh ben moi, j'ai pas mis premier. Non, je déconne.
Steph Core l'a mis deuxième.
Il a mis qui premier?
Hamilton.
Non.
Si.
Oh, Steph Core, mais...
On le disqualifie?
Oh non, faut faire tout le classement, ça se trouve Button va être devant Alonso à la régulière.
Finalement, on l'a pas beaucoup vu, Vettel.
Moi, je dirais enfin. Il est parti.
Oui, déjà. Enfin.
Parce que ça fait quand même quelques courses qu'on ne voit plus,
Ah oui, non, il était en retrait.
On le voyait tellement dominé après les premières courses, on le voyait tellement dominé cette saison, sauf panne mécanique. Déjà, on a été surpris quand il s'est fait taper par son coéquipier. Après, face à Hamilton, rebelote.
Ah, puis là, on l'a vu au départ, et puis on l'a plus revu, on l'a revu qu'une heure et demie plus tard.
Voilà.
Ah non, on l'a revu à un moment donné au restart après la safety car.
Oui.
Qui a bien failli se gaufrer quand même. Hein. Même si, alors, on a eu ce grand moment de... Parce qu'il y a quand même le flou du règlement, mais il y a aussi, à un moment donné, les journalistes qui font pas attention, quoi. On a eu, je crois, c'est Lafitte qui a dit « Mais non, mais il peut pas dépasser avant la ligne !» Oui, mais ça, c'est au dernier tour. On est au 32e tour, oui. Pas le problème. Hein. Elle a le droit de dépasser 200 mètres avant la ligne. C'est le problème du règlement, c'est que c'est pas très clair. Mais il faut le lire aussi. Si tu le lis pas, tu peux pas savoir.
Quelque chose, envie de dire quelque chose sur Vettel? Voilà, il est parti en pole, il est premier.
Il égalise avec Hamilton.
Oui.
Button avec deux victoires.
Pour le moment, la place du coup, elle revient à Alonso qui n'a
qu'une victoire.
Tous ceux qui n'en ont pas.
Oui, enfin là quand même, il y en a...
Massa.
Là maintenant, on peut quand même dire qu'on a à peu près tous les vainqueurs de la saison.
Ouais.
Bah, j'espère qu'il y en aura au moins trois autres.
Oui. Michael Schumacher, Kubica et Massa.
Non, Rosberg aussi.
Non, Michael Schumacher.
T'es à nouveau pour Soumy, toi.
Bah, par rapport à Rosberg, ouais.
Rosberg gagnera avant que Soumy ne regagne. Vous, ça, vous pouvez l'enregistrer et vous le ressortirez, hein, ok?
Vous vous spécialisez de ça. Mais tout est enregistré, Enzo.
Oui, non, mais regarde-le, ça, c'est sous le coup, on sait jamais.
Donc voilà, c'était pour le classement du SAV pour ce Grand Prix d'Europe. Juste, là, revenir un peu sur sur Weber, donc qui n'était pas dans le classement, mais il faut dire qu'il n'a pas fait une course bien terrible. Jusqu'à alors, donc ce...
Bah, oui, ouais.
Il a même été à chier.
Ah bah, ah bah il a complètement foiré son départ en
un
côté.
Tour, passer de deuxième à neuvième, hein, faut vraiment être mauvais, quoi.
Je pense qu'il avait, il avait les nerfs que Vettel soit devant.
Oh oui.
Mais il voulait pas non plus revivre l'accrochage.
Mais ça m'a fait penser, je sais plus à quel Grand Prix où il était parti en pôle et il s'était fait bouffer par Vettel. Je crois que c'est Espagne, non? Non, pas Espagne. C'était un Grand Prix avant où il s'était fait bouffer par Vettel et où juste après on avait dit vous allez voir au prochain Grand Prix va falloir qu'il réagisse et où il avait bien réagi. Bah c'était l'Espagne justement. Mmh. Où il avait réagi, il s'était affirmé face à Vettel. Et là, moi, on a retrouvé le Weber qui s'est dit « Oh putain, il est devant, merde, comment je vais faire ?» Et qui, du coup, a sans doute tellement obsédé par Vettel, oui. On a oublié qu'il y avait des mecs derrière à retenir quand même.
Il y en avait 24 autres derrière.
Voilà. En tout cas, au moins 7 oui. Qui lui sont passés devant.
Et donc, déjà, bon, ce départ était pas terrible. Quand est venu, donc, ce 8e tour, c'est bien ça?
Assez rapide que ça, assez rapidement.
Non, il a fait qu'un tour, en l'air.
Enfin, le tour est long hein, à Valence. Il fait près de 5 km.
Bah, on fait des chronos en 1.38, je crois. Une 38, une 40.
J'ai 8e tour, c'est ça. Un safety car de la 9e à 14e, donc. Où il est tombé, donc, sur Kovalainen. Et où, en effet, il nous a fait du patinage artistique, de l'aviation,
Il est pas tombé sûr, il est retombé bien devant. Hein.
Mmh. Ah oui, il est bien devant. Un vibrant hommage à sa course au Mans, hein, parce que on l'a fait remarquer, oui. Hein, ça lui était arrivé sur les fameuses Mercedes, pareil, Looping.
D'ailleurs, j'ai un petit surnom pour lui, soit Looping, hein, comme dans, soit Monsieur 720 degrés.
Donc rappelons-le, hein, quand on voit le fond plat d'une voiture, c'est mauvais signe.
Mais c'est rare parce que je crois que le dernier précédent que moi j'ai trouvé, c'était. D'accord. Ok. Je ferme ma gueule.
Donc.
Non mais c'est vrai que je crois que c'est rare quand même. Hein.
Oui. Pardon.
Très impressionnant. Pour l'instant, la saison n'est pas finie. C'est quand même le crash de l'année pour l'instant.
Bah, il est pas sans rappeler par son côté impressionnant parce que bon après une fois qu'on a vu la voiture,
oui,
on a plus trop d'inquiétude. Moi finalement j'étais plus inquiet pour son arrivée dans les pneus que pour son oui. Son looping, mmh. Mais quasiment aussi impressionnant que l'accident de Robert Kubica en 2008.
Alors la voiture était quand même moins à Montréal, Kubica il a pulvérisé sa voiture.
Voilà, non mais c'est bien justement pour ça que j'ai précisé avant, c'est moins impressionnant sur le résultat de la voiture, mais sur le coup, moi j'étais mais devant mon écran j'étais scotché.
Ouais, puis quand on connaît un peu le sport auto, c'est vrai que c'est pas forcément les incidents les plus spectaculaires qui sont les plus dangereux.
Oui, regardez la sortie de Soumy.
Voilà, la sortie de Chimie, même l'an dernier massage, à part le choc. Je veux dire, après, si tu vois pas le choc à l'origine, c'est une simple partie de piste. Hein.
Mais ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai donné pendant le chat des extraits de vidéos, j'ai notamment donné un extrait de vidéo d'un incident qui était arrivé à un pilote d'IndyCar il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle Dario Franchitti, à qui c'est arrivé 2 fois dans la saison de s'envoler. Et c'est moi ce qui m'a fait réfléchir sur le coup, c'est que je me dis, voilà, quand ça arrive à une F1, je suis vraiment très étonné. Alors que j'ai assisté aux 2 courses en direct à la télévision d'IndyCar où le pilote s'était envolé et avait fait même à un moment donné il a fait 2 tours en l'air. On le voit aussi parfois en NASCAR. C'est des images pourtant on est habitué à voir, mais là pour le coup en F1, moi je me suis dit mais c'est pas possible quoi. La preuve qu'une F1
ça vole.
Ça vole.
Mais tout le monde dit qu'il a fait une magnifique pub pour Red Bull.
Bah oui.
Tu l'as dit d'ailleurs en intro.
Oui, c'est la blague du moment en F1 parce que voilà, sur les Red Bull, il y a marqué ce qu'on voit dans les pubs en français, hein. Red Bull vous donne des ailes. Bon, bah voilà, quoi.
D'ailleurs, je crois que c'était sur un site d'actu, et il y avait un titre qui était très joli, c'était, Weber et Vettel, taureau et les...
Voilà. Pour revenir un petit peu, quand même, un fait important de la course. On passe au classement. Et au classement du SAV pilote. Vettel reprend la tête. C'est logique après toi. 127 points. Devant Alonso, 123. Et Hamilton est à 113. Chez les équipes, Red Bull est devant, 224 points. Devant McLaren, 211. Et Ferrari déjà est à 163 points. Là encore, ça se resserre. Dans l'autre classement, Lewis Hamilton est premier, 127 points. Jenson Button, deuxième, 121. Et Vettel, troisième, 115.
Est-ce qu'on a besoin de citer ce classement à chaque émission? On pourrait se contenter des émissions où...
Écoute, voilà, Hamilton n'est pas en tête. Malheureusement, même si c'est très c'est une des injustices de la F1, c'est ce classement-là qui compte. À noter que Alonso est à 29 points du premier. Lui qui est cinquième.
Ça fait plus qu'une victoire, ça.
Là, oui, ça commence déjà à faire plus qu'une victoire.
C'est, il y a quasiment, pour le moment, il y a quasiment plus de droit à l'erreur, quoi.
Si, voilà, ah, si.
Attends, je suis pas d'accord. À mi-saison, quand on dit, quand quelqu'un avait 10 points d'avance, on disait pas que c'était perdu, quoi.
Non, non.
Oui, non, mais, c'est-à-dire que vu les performances qu'il y a en face, le fait, par exemple, que McLaren, pour moi, ne fasse pas de grosses erreurs, et le fait que, contrairement à ce qu'on prédisait en début de saison, la Red Bull, pour le moment, s'ils ont fait de mauvais résultats sur les dernières épreuves, c'est pour soit des incidents de course, Weber, soit la bêtise même des pilotes qui se sont percutés.
Finalement, ils sont
la fiabilité de la Red Bull. Là, on est arrivé avec une Red Bull où on avait des inquiétudes sur la boîte, et finalement, Vettel, il a gagné la course avec la même boîte, sans prendre de pénalité et sans avoir à en changer. Donc on a une Red Bull qui a l'air finalement pas si peu fiable que ça. Et malheureusement, faudra quand même une bonne Ferrari et un bon Alonso pour refaire son retard, même si c'est tout est possible. Mais ça fait des jokers de griller, et même si Vettel était un peu plus dans une situation critique au classement il y a quelques courses, la Red Bull avait quand même un potentiel qui laissait penser que c'était rattrapable, ce qui n'est pour le moment pas le cas de la F10.
Chez les constructeurs, McLaren est devant, 248 points, 30 points d'avance sur Red Bull, 218, et Ferrari, bah là, est à 165 points.
Ça c'est fini, ça.
Là.
C'est pas fini, mais bon.
Mais ouais.
Il y a qu'un pilote chez Ferrari.
Oui, parce que sur les 165, Alonso est 98 et Massa est 67.
Pourquoi ils l'ont reconduit pour l'an prochain?
Mais pas plus que pour l'an prochain.
Oui, en plus.
Allez. C'est tout pour la course. On va aller dans le passé. J'ai l'impression qu'on va parler de crash ou de looping. Tu ne penses pas, Dino?
Ouf. C'est vrai que, avec Enzo maintenant, je m'étonne plus de rien. Tout à fait, Shinji, je crois effectivement qu'on va parler de gestes techniques dans cette minute historique d'Enzo.
Allez, il n'a pas préparé grand chose, donc elle risque de faire vraiment une minute.
Ceci est un message du comité de surveillance des podcasts. Pour relever le niveau de l'émission, le service après-vente de la F1 vous présente sa rubrique culture, la minute historique d'Enzo.
Il a peur, là, il se dit.
Il gagne du temps, tu vois.
Bah, je prépare ma minute historique pendant ce temps. Non, je voulais effectivement préparer un peu plus, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Ça, en plus, c'est vraiment un peu de mémoire. J'ai ouvert 2-3 bouquins, là, juste avant de commencer l'émission pour vérifier des dates, etc. Mais effectivement, on va parler des crashs et notamment des loopings. Et... Ouais, mais pas lui. Donc pendant le chat, chose qui m'a d'ailleurs horripilé, Dino nous foutait plein de vidéos qui se mettaient en route, donc il y avait le son qui se mettait en route pendant le Grand Prix, c'était insupportable. D'ailleurs, du coup, après j'ai éteint, j'ai quitté le chat et je suis revenu 2-3 fois. Mais donc tu nous as montré effectivement les photos de des vidéos de Frantici et puis de Weber au Mans. Mais est-ce que vous vous souvenez quand est-ce qu'il y a eu le dernier looping comme ça en F1? Alors c'est là qu'ils vont m'en sortir un que j'ai complètement zappé.
C'est pas un peu... Marc Coma en 93 à Monza.
Marc Coma. Eric Coma si vous voulez.
Alors. Voilà, Eric Coma. Ouais. Je suis désolé, moi je suis resté sur Marc Coma en rallye raid.
En 93.
À Monza.
Quel grand prix? À Monza. Monza.
Oui.
Ah, Monza. C'est pas mauvais.
Bah j'ai mis la vidéo sur le... sur le chat.
Et effectivement, Monza 93, c'est Fittipaldi, donc qui... et sur la Minardi qui escalade de Pierluigi Martini sur
oui, ça c'est pas dit,
passage, ouais, non, de, passage de la ligne d'arrivée. Et en plus c'est entre coéquipiers, donc il veut le doubler et il finit sur le nez de sa Minardi. Est-ce que vous vous souvenez un autre avant? On est en 92, une année avant, on est au Portugal. Grand Prix où Prost a signé d'ailleurs avec chez Williams alors qu'il était en année sabbatique hein, en 92 donc. Mansell l'emporte et c'est son coéquipier Patrese qui fait un looping comme ça parce que Berger rentrait à piler pour rentrer au stand tranquille juste devant lui.
Attention, il fait un looping hein, pas 13.
Ouais.
Ouais. Je voulais te la faire avant que tu la fasses.
Oui, non, mais on l'a fait aussi dans une BD, ça.
Oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai refait. C'est une manière de pouvoir rappeler des BD.
C'est dans quelle BD?
Oh, je sais plus, t'en as tellement fait.
Ouais, arrête. Putain de BD. et avant cela, alors je vous dis, hein, c'est vraiment de mémoire. D'ailleurs, j'invite les auditeurs, s'ils s'en rappellent d'autres, à nous les communiquer. On parle de looping, hein, vraiment. Alors c'est pas vraiment un looping, mais c'était, hein, on va dire, un beau tonneau. C'était Gulgenmin, Mauricio Gulgenmin, au Grand Prix de France au Paul Ricard, qui au départ escalade l'aileron arrière de Mansell. Et qui va faire des tonneaux. Alors c'est pas vraiment un looping, mais il est quand même bien en l'air. Et puis avant ça, le seul que j'ai en mémoire, malheureusement, c'est Zolder en 82, où Villeneuve, sa voiture s'envole littéralement. Et à l'époque, les ceintures de sécurité n'étaient pas les mêmes qu'actuellement. Tout s'arrache et il est carrément éjecté de sa voiture pour finir dans les grillages. Et il meurt sur le coup, quoi.
Les images, j'ai vu une fois et je n'ai jamais revu d'ailleurs.
C'est vrai? Pourquoi? Parce que tu les as...
Bah, contrairement à l'incident de Senna que j'ai vu plusieurs fois en vidéo, l'incident de Loda que j'ai vu plusieurs fois en vidéo, celui de Villeneuve, je l'ai vu une fois et je ne veux pas le revoir une deuxième fois.
Ah, tu veux pas le revoir?
Ah voilà, je veux pas le revoir et
Alors, ça fait partie de l'histoire de la F1 aussi, même si c'est malheureux quand même.
Ah ouais, non, mais c'est pourtant pas mon genre, parce que j'ai plutôt la réputation d'être froid devant des images terribles, mais là, c'est une image qui est...
Voilà, donc je suis désolé, j'aurais voulu vous donner, voir des liens sur YouTube pour voir cette vidéo, effectivement, notamment celle qui se termine bien, parce que, oui. Mis à part celle de Villeneuve, tous ces pilotes s'en sortent indemnes à chaque fois. Donc on va en profiter aussi pour remercier d'ailleurs Balestre pour tout ce qu'il a pu faire quand il était la présidente de la F1, pour notamment les cellules de survie des voitures.
Mais c'est vrai que quand on voit l'accident de Weber, c'est le premier truc qu'on pense, c'est que indirectement, c'est entre guillemets heureusement qu'il y a eu qu'on a tiré d'événements graves. Comme la mort de Senna, qui ont été des électrochocs et qui ont fait prendre conscience de la sécurité.
C'est la schizophrénie du fan de F1. C'est à la fois, on veut pas qu'ils se blessent, bien sûr, on veut pas que les pilotes se blessent, on veut qu'ils aillent bien.
Mais
il y a cette fascination un peu morbide envers voilà tout ce qui est gros crash.
Mais c'est également aussi pour ça que beaucoup de gens regardent la F1, mais juste les premiers tours pour voir, parce que c'est bien souvent au départ qu'il y a des crashs.
Non, nous on est des vrais fans, on regarde même la partie chiante.
Ouais. On regarde même les plus PMU.
Ouais.
Allez, revenons à quelque chose de plus léger. On va passer aux faits marquants de la course. Et donc...
Ça c'est qui gagne cette semaine?
Quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix du Canada 2010? PMU qui mène la course, 9% de vote. C'est qui avait dit ça?
C'est moi.
Les Red Bull qui marquent le pas, 9 votes, 41%. Et donc premier, 50%, 11 votes, la dégradation excessive des pneumatiques. Alors, pour le Grand Prix d'Europe. Mais non, ça a continué toute la course. Bon, allez.
Je lui cache pas son plaisir, il est premier pour une fois, il va avoir le dernier choix. Il n'est pas habitué à ce genre de choses.
C'est vrai.
Allez, Dino.
Il y a quand même des gros faits marquants.
Il y a
des gros faits marquants, mais il faut trouver la bonne formulation de ce fait marquant précis.
C'est
C'est par rapport aux pénalités de à la fois la pénalité de Button, de d'Hamilton, mais aussi les pénalités voilà, c'est
les pénalités un peu à la volée qu'il y a eu
les pénalités non pénalisables, non pénalisantes.
Ouais, voilà, les pénalités non pénalisantes.
Ouais, voilà. C'est une jolie formulation.
La pluie de pénalités non pénalisantes.
Ça s'appelle une allitération, voilà, ce que tu viens de faire.
La pluie, là, faut que je le note parce que ça je vais jamais m'en rappeler. La pluie de pénalités non pénalisantes.
Donc elle me sera à moitié à moi aussi cette victoire si jamais.
Oh non! Oh non, c'est à moi ça.
À toi Enzo.
Le looping de Weber.
Ça m'a même surpris que Dino le prenne pas en premier.
Ah oui.
Oui, mais je pense quand même que le fait marquant, ça va surtout être la pénalité d'Hamilton et
pas du tout, ça va être le Weber quand même.
Oui, je suis pas sûr.
Si j'avais le côté morbide des autres. Car vous êtes morbide, il faut le savoir.
Alors, qu'est-ce qui me reste? Bon, le crash de Weber c'est pris, pénalité d'Hamilton c'est fait. Je vais dire la bonne course des Ferrari ruinée par la safety car. Ah, écoutez, il y a plus forcément beaucoup de choix après ce que vous avez pris, donc.
La bonne course des Ferrari ruinée par la safety car.
Quelle bonne course des Ferrari?
Elle aurait pu être bonne, mais.
Ah voilà. Oui, elle aurait pu, hein.
Voilà.
Il y aurait pas eu 20 autres voitures, elle aurait pu.
Mais en même temps, il y a quand même un équilibre par rapport à ce qu'il a bénéficié depuis le début de saison, où plusieurs fois il a bénéficié de la safety car, il a gagné des places grâce à ça.
Oui.
Donc là, indirectement, il y a une forme de justice, voilà, les points que t'as gagnés en début de saison grâce à la safety car, là, tu les perds. En vrai, c'est que d'autres ne les perdent pas.
Ah bah.
C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'équilibre du karma, c'est ça?
Je pense qu'il y a...
Parce que si on part sur une question d'équilibre du karma, t'imagines ce que ça va être pour Hamilton en fin de saison.
Il y a E.T. qui veille de façon bienveillante sur la F1, et je pense que le pouvoir de E.T. Alors peut-être pas que j'utilise E.T. parce qu'on risque de confondre avec Bernie Ecclestone. Faudrait que je trouve un autre extraterrestre. Non, c'est pas possible de trouver autre chose qui ne fasse pas penser à Bernie Ecclestone.
Alien.
Oui, mais Alien, il n'est pas bienveillant.
Oui. Donc, n'oubliez pas, pour voter, comme d'habitude, c'est sur le site www.savf1.fr. Et tout de suite, on passe au drive-thru.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Alors,
qui va être le premier à taper sur la FIA? Ou Hamilton?
Bah, moi, je... Allez, drive-through contre les commissaires, tout simplement. Parce que, ouais, ça a été n'importe quoi.
Pas les commissaires.
Bah, c'est quand même eux qui filent les pénalités.
Ah non.
Bah, les 5 secondes, c'est eux qui les ont collées.
Hein, les 5 secondes, c'est eux qui les ont collées.
C'est la direction de course, ça n'a rien à voir.
Ouais.
Ce n'est pas les commissaires. Les commissaires, c'est eux qui piquent un sprint pour ramasser la bouteille de la canette.
Voilà.
Oui. Oui, d'accord.
On s'entend quand on dit commissaire, même si c'est vrai que le terme est mal utilisé, on s'entend que c'est les commissaires de course.
Voilà.
Les
marshals. Enfin, la direction de course, pour être précis.
Voilà, les marshals, préfère.
Oui. Oui.
Enfin, monsieur préfère les anglicismes, d'accord.
Donc, je sais pas, est-ce que c'était la chaleur espagnole, je sais pas, ils ont pété une durée, quoi, pendant la course.
Non, mais il y avait Frenzen, il n'a rien fait en Formule 1, il pouvait rien faire en tant que commissaire.
Non, je peux pas dire, il a failli être champion de 99. Il aurait mérité d'être champion du monde en 99. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien.
Jordan,
il a failli, excusez-moi.
Non, c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est les grandes années de Jordan, mais...
Oui, de la mériter...
Monza, il méritait d'être champion du monde, je suis désolé. Ça aurait fait un très beau champion du monde.
Voilà, ça aurait fait un très beau champion du monde. C'est-à-dire... mérité.
Plus que Irvine, d'ailleurs.
Oui,
mais Irvine n'était pas chez Ferrari. Enfin, Frenzel n'était pas chez Ferrari.
Il y a beaucoup de pilotes qui feraient plus beau champion du monde qu'Irvine.
Eh, hey, Frenzel.
Allez-y.
T'imagines, et Frenzel, il pouvait pas se faire piquer sa femme par Schumacher et lui piquer son titre de champion du monde. Ça se fait pas.
C'est un échange de bons procédés.
Voilà.
Je te file ma femme, tu me files un titre. Non, vous avez des idées? Alors, pour vos drive-thru?
Moi, ça sera un drive-through. Alors, t'as parlé des commissaires. Bon, j'ai souvent envie aussi de taper sur le plus de responsables possible. J'avouerai que dans cette histoire-là, il n'y a pas que les commissaires, il y a aussi les équipes. J'avais déjà fait la remarque À propos de la pénalité infligée à Mercedes, comme quoi Mercedes est quand même une équipe professionnelle qui doit connaître le règlement. Des mecs comme Ross Brawn doivent connaître le règlement, et c'est parce qu'ils le connaissent qu'ils l'interprètent. Maintenant, il y a une surinterprétation. Donc, je pense qu'il y a la faute certes du pilote, il y a aussi la faute de l'écurie, mais j'ai pas non plus envie de taper que sur McLaren. J'ai envie de taper sur toutes les écuries qui ont été pénalisées. Et même si je n'utiliserai pas le terme de course manipulée comme l'utilisent Ferrari et Fernando Alonso, parce que je trouve que c'est un petit peu exagéré. C'est pas une course manipulée, il n'y a pas eu de manipulation au sens où on pourrait tricher sur le score d'un match de football, ou il n'y a pas eu de volonté spécifique de défavoriser Ferrari et d'avantager les autres. Je pense quand même que là, toutes les équipes, alors qu'elles demandent sans cesse des éclaircissements sur la réglementation, là on a eu un éclaircissement ce week-end, enfin cette semaine, qui a été relativement clair, et ils en ont fait comme ils voulaient. Voilà, et ils ont fait mumuse avec le règlement, et à un moment donné, il faut que ça cesse, et je dis, c'est même plus à ce niveau-là, c'est même plus les pilotes qu'il faut pénaliser, ce sont les écuries, et pénaliser de façon sévère.
Non, pour taper où ça fait mal pour les équipes, il faut taper sur les points.
Ouais.
Oui. Les points constructeurs.
Faire comme on l'avait fait avec McLaren en Hongrie 2007, on sanctionne ces équipes-là, les points, elles ne les marquent pas. Les pilotes peuvent marquer les points, mais l'écurie ne les marque pas. Et toi, Enzo, tu as un drive-through?
Oui, bah alors, c'est un peu dans la même lignée, on va dire. Mais mon drive-through, ça sera contre Alonso. Alors, je comprends qu'il est toujours une dent contre Hamilton. Alors, je sais pas si c'est une mauvaise traduction de nos chers animateurs de TF1. Mais bon, en radio, visiblement, il a dit « Occupez-vous d'Hamilton, allez voir Charlie, occupez-vous d'Hamilton, parce qu'il a doublé la voiture de sécurité. » Alors qu'il le signale, je veux bien. Mais bon, j'ai l'impression vraiment qu'il en faisait vraiment une affaire personnelle que Hamilton soit pénalisé pour ça. Et je sais pas, moi, pendant la course, j'estime qu'il le signale, ok, mais qu'il a d'autres chats à fouetter. Il a surtout d'autres concurrents à doubler devant lui. Chose qu'il n'a pas faite d'ailleurs, avant de vouloir faire le chef, quoi.
Avec Charlie, c'est ce qui avait fait sauter sur TF1 les mecs, ils ont entendu le mot Charlie tout de suite. Ouais. Charlie, c'est des feux rouges, des lampes qui brillent partout dans le monde. Attention, on a parlé de Charlie.
Ce qui est quand même fabuleux, c'est qu'ils ont mis je sais pas combien de temps à nous trouver les images, et surtout, et on sait pas pourquoi. C'est un peu...
Ouais, on a vu les images en fait qu'au moment où on a vu la pénalité pour Hamilton.
Ils cherchaient les images, je pense.
Ça a presque donné l'impression, je sais pas si c'est le cas, qu'en fait les commissaires ont réagi parce que ils ont entendu Alonso. J'ai l'impression que si Ferrari n'avait pas gueulé, ce qu'avait fait Hamilton, il l'aurait pas vu.
Oui, sans doute pas. Hein.
C'est la question, c'est est-ce que les commissaires ont la même comment dire, il y a ça aussi, hein. S'il y a un petit drive through à mettre, ça sera aussi sur la réalisation anglaise, qui certes l'incident de Weber est spectaculaire, de là nous repasser 10 fois ouais. En 5 minutes.
Bah ils ont mis le temps.
Donné, oh, notez,
c'est un peu limite quoi, on n'a pas arrêté de nous le passer.
Faut noter d'ailleurs que le réalisateur a eu du cul. Parce qu'en règle générale, quand il se passe quelque chose d'important, en règle générale, on le voit en replay parce qu'au même moment, on était sur le, je sais pas où, sur un autre pilote
sur les
et tout ça.
Qui était dans la piscine.
Voilà. Et là, le réalisateur, il a eu du bol. Il se fout sur Vettel, sur Weber et Kovalainen et boum. C'est un fait quand même assez rare pour le souligner. Voilà. C'est tout pour les drive-through, je suppose. C'est tout.
Hein? Ouais, j'ai bien aimé le podium.
Ah oui, je l'ai pas vu.
Personne ne l'a vu. Enfin,
moi non plus, donc pour ça que je l'ai bien aimé. C'est, pour une fois, j'ai rien à dire dessus. Donc,
pour une fois, TF1 avait une bonne excuse, en disant oui, non mais vous comprenez, il y a le foot et tout. En même temps,
l'hymne allemand et l'hymne anglais, on l'a entendu.
Ouais. En même temps, normalement, on n'aurait pas dû entendre l'hymne allemand.
Bah l'hymne allemand, on l'a entendu.
Oui, oui. Mais,
c'est victoire de Vettel.
Oui, non, c'est.
Oui, mais l'Autrichien, on n'a pas entendu.
L'hymne autrichien, on n'a pas entendu, mais l'hymne anglais, on l'a entendu après, mais.
Non, mais
c'était pour oublier le podium.
Ce qui est drôle, c'est qu'ils nous ont justifié ça avec la Coupe du Monde pour finalement nous balancer un tunnel de pub, bien évidemment. Bien sachant que je suis certain, on n'a pas vu le podium, mais je suis presque sûr que le podium, il s'est pas éternisé, hein.
Ah bah non, bah
parce
non.
Qu'on sait bien que voilà, il y a plein d'anglais, il y a plein d'allemands. Allez basta, on regarde le foot.
On décale la conférence de presse d'une heure et demie.
Alors, on passe à notre concours.
Oui, le concours top position.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours top position. Un concours sans musique qui fait flipper, ni question à la con, quoique.
Alors, la question top opposition du Grand Prix du Canada était la suivante. J'ai failli dire Turquie, je me mélange dans cette question. Pour quelle raison Nelson Piquet était-il hilar en 1991 après sa victoire au Canada? Question proposée par Bouchard et réponse proposée par vous, messieurs.
Parce que Mansell avait abandonné dans le dernier tour en saluant le public.
Voilà, et puis ils étaient vraiment très amis, hein, Mansell et Piquet, ils s'adoraient pleinement. Donc nous avons reçu à cette question 4 réponses.
C'est tout.
On se fout dans la
moyenne. Sur la moyenne, début d'année, de ceux qui font des efforts voilà, pour nous envoyer des questions avec la réponse. Même si certains ont oublié de mettre les réponses avec les questions qui vont avec la réponse.
T'as cherché, là?
Ah oui, mais moi, en même temps, c'était pas très dur, hein. Alors, attention, nous avons 4 questions, je vous les lis. On va voir si vous avez les réponses, on coupera en montage. Pour quelle raison Kimi Raikkonen a-t-il abandonné lors du dernier tour du Grand Prix d'Europe 2005?
Un bien triste moment.
Alors, question suivante. Lors du Grand Prix d'Europe 95, quel pilote fut déposé par Michael Schumacher à l'approche du dernier tour et fut ainsi privé de la victoire? Ensuite, troisième proposition de question. Quelle est la particularité du meilleur tour en course signé par Ayrton Senna lors du Grand Prix d'Europe 93? C'est une réponse que nous avons déjà donnée, Enzo en tout cas a déjà donné plus précocement dans la saison.
Oui.
Et enfin, dernière proposition de question, quel pilote à part Ayrton Senna a montré sa virtuosité sous la pluie lors du Grand Prix d'Europe 93? Alors, messieurs...
Ah bah, moi, tu devines quelle est ma préférence.
Je sais pas. Il y en a un, je lui dis qu'il n'avait peut-être pas marqué des points en posant cette question-là.
Ouais.
Surtout en utilisant le mot déposer.
Risque pas d'être un peu ardu? Non, je sais pas.
Oh bah non, il suffit de regarder qui a fini deuxième et puis
voilà.
Ouais,
oui.
C'est vrai.
Moi j'aime bien ce que je te dis, mais est-ce que je peux lire la question?
Oui, non, parce qu'il faut quand même retenir le mot déposé qui a été utilisé.
Et justement, par je voudrais la transformer un peu.
Ah non, il faut que tu la prononces de la même manière.
Donc, la question de cette semaine est donc la suivante. Lors du Grand Prix d'Europe 1995, quel pilote dut abandonner la première place face à Michael Schumacher à l'approche du dernier tour et fut ainsi privé de la victoire?
Encore plus longue que ce qu'on m'avait envoyé, parce que déjà je l'ai modifié la question qui faisait à peu près 3 pages, je l'ai résumé en 3 lignes, et Enzo en refait un truc de 3 paragraphes.
Le mot déposé, je ne pouvais pas.
Et donc, noté comme indice...
C'est faux d'ailleurs, c'est faux d'ailleurs.
Oui.
Déposé n'était pas le bon terme.
Ou
quoi? Si vous aviez vu le Grand Prix, vous le sauriez.
Quant à l'indice... Pensez à la personne qui vient de poser cette question.
Donc, vous avez compris, allez-y sur le site du SAV, hein, rubrique contact, question concours ta proposition, voilà, et vous envoyez votre réponse, sans oublier de nous donner une question avec la réponse à la question qui va avec la réponse de la question de la réponse de la question. Voilà.
Allez, vous pouvez jouer maintenant.
Voilà. D'ailleurs, et le mieux, c'est que, allez-y, vous arrêtez les questions, vous allez répondre tout de suite sur le site.
Oh non, mais...
Allez-y, arrêtez tout ce que vous faites, allez-y.
Allez-y, on vous dit.
Allez, prochaine course. On revient au berceau.
Oh putain, il le fait bien.
Comme le dirait Mufasa, c'est le cycle de la vie, tu vois. La vie est cyclique, voilà. Et donc on revient à Silverstone. Le Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors, qui? J'ai même envie de dire.
Fernando.
Jenson Button. Il n'a pas gagné l'an dernier et voilà.
Hamilton.
On est vachement courageux dans le choix quand même. Il a quand même pris...
Écoute,
deux pilotes sur trois.
Écoute, on veut bien dire Glock, mais bon, en même temps, ça risque d'être un tout petit peu plus dur pour lui quand même.
Surtout, il est pas anglais.
Oui.
Ah, ils ont annoncé des gros progrès sur la VR01.
Ah, ils vont mettre un moteur? Sur ce, merci à nos divers partenaires sites. Merci au Tour Mécatech.
Ah non, pas merci au Tour Mécatech.
Oui, c'est vrai, tiens, ouais.
Ils ont pas fait leur boulot ce week-end. Bon, d'accord, il y a le bike et le brevet, mais quand même, le SAV, ça passe avant.
Non, mais déjà, vous appelez ça un boulot?
Non, c'est vrai que je fais aussi bien.
Non, quand même pas.
Non, quand même pas.
Tu fais aussi pire.
Ah, ça c'est très bien, je fais aussi pire. Ça c'est magnifique comme phrase.
C'est-à-dire que tu ferais un très bon vendeur pour Husqvarna.
C'est quoi ça, Husqvarna?
C'est un fabricant de tondeuses.
Ah, attention, on l'a refait. Ah, mais oui, oh, le fameux fabricant de tondeuses, Shinji. Oh, tu es très drôle. Ça s'est vu qu'on est coupé là, les gars, parce que c'est pas déjà.
Merci à vous deux.
Merci à toi tout seul.
Bah, on te remerciera, toi aussi, Shinji, parce que on est content de voir que tu as abandonné ta langue maternelle pour faire un effort.
Ah, hein, salaud.
Tu as arrêté de parler le Shinji, c'est très bien.
Oh, ça peut revenir. Ça peut revenir.
D'ailleurs, je crois que j'ai reçu un mail en Shinji. Oh, j'ai oublié de dire qu'il était le vainqueur, la question de position. Il est en train de se dire depuis tout à l'heure, mais merde, c'est ma question, personne ne parle de moi. Alors c'est, alors on va demander à Enzo s'il devine qu'il peut avoir posé cette question avec
oui,
ce mot
bien sûr.
Si particulier qui est déposé.
C'est, comment il s'appelle, notre ami fan de Kubica.
Oui, tout à fait, c'est Steph Curry. Il l'emporte donc.
Est-ce qu'il avait déjà gagné ou c'est sa première victoire?
Oui, je crois qu'il avait déjà gagné, d'ailleurs il y a 2-3 émissions. Et donc, je rappelle quand même ce que vous gagnez quand vous participez à cette émission.
Rien.
Vous gagnez un petit bulletin qui servira à un grand tirage au sort qui aura lieu à la fin de l'année pour gagner un cadeau mystère. Un poil de barbe de Shinji. Et un dictionnaire franco-Shinji, Shinji. Très important, le dictionnaire.
Oh ta gueule.
Pouvoir discuter avec le poil de Shinji, il faut un dictionnaire qui va avec.
Le problème, c'est qu'il
faut... Ce n'est pas Shinji qui parle, ce sont ses poils qui parlent, faut le savoir.
Sur ce, parce que là, faut abréger, parce que là, ils vont partir très 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 loin, je le sens. Allez, bonsoir à tous.
Allez, salut.
À bientôt et n'oubliez pas, allez-y pour voter sur le site.